Faut-il absolument courir d'une certaine manière, avec le matériel supposé le plus moderne et le plus performant? Faut-il partir à l'autre bout du monde aussi pour vivre l'aventure? Ma discussion avec mon invité va vous montrer que non. Nicolas vient de courir le marathon de Paris en 2h39 et en sandales. Et il va partir à l'aventure, aux portes de Paris, là encore, dans une approche minimaliste. Et il se pourrait bien que ça vous donne des idées. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Si vous avez couru ou assisté au marathon de Paris, vous avez peut-être vu mon invité du jour. Bon, en fait, il est même passé à la télévision. Il se pourrait même qu'il vous ait doublé et que vous ayez trouvé ça un petit peu insolent, sa manière de courir. Avec son short rouge, son maillot Mr. Strong, Monsieur Costaud, rouge lui aussi, ses sandales rouges, là encore, Nicolas a bouclé le marathon en 2h39. Pas vraiment une surprise pour lui, d'ailleurs, vous verrez que peut-être, il aurait pu aller un tout petit peu plus vite. En fait, Nicolas court en sandales depuis quelques années et il a amélioré tous ses records depuis. Mais le minimalisme est-il pour autant la solution pour courir plus vite alors que tout le monde parle de carbone? La réponse n'est pas si simple. Oui, Nicolas court le marathon en 2h39 en sandales. Oui, il a aussi fait des ultras en sandales. Mais Nicolas a aussi pris le temps de faire une grosse période d'adaptation pour s'habituer, pour faire évoluer sa foulée. Il s'entraîne beaucoup, il a un certain niveau de départ, il a de l'expérience et il a aussi une âme très compétitive. Dans cet épisode, nous parlons de son choix de venir aux sandales et pourquoi il ne les quitte plus. Comment il a fait la transition, comment sa manière de courir et sa foulée ont changé avec les sandales. Vous découvrirez notamment sa cadence, sa pose de pied qui ont évolué. Quels sont les modèles qu'il utilise, ses conseils aussi pour courir en minimaliste comme ça. Comment il a couru aussi des ultra-trails de plus de 200 km. Sa vision aussi de ce qu'est la performance et pourquoi il est très compliqué de savoir s'il pourrait courir encore plus vite en carbone. Et puis un deuxième élément de son parcours m'a marqué. Dans quelques mois, il partira pour une éco-aventure aux portes de Paris. Le tour de l'Île-de-France en courant. Là encore en sandales, seul et en bivouac avec un sac minimaliste. Là encore, c'est une démarche originale qui montre que l'aventure peut être au bout d'une ligne de RER ou de TER, qu'on peut relier sport, aventure, bien-être et écologie sans partir à l'autre bout du monde. Et oui, nous avons plein de choses à picorer dans sa démarche minimaliste, et je pense que son parcours, ses idées, son défi peuvent vous donner des idées à vous aussi. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Mr. Strong.
Bonjour, ça va ?
Ça va et toi ?
Très très bien, très très bien.
Bon, je t'appelle Mr. Strong parce que je t'ai vu à la télé, déjà, d'une part, avec ton beau t-shirt Mr. Strong.
C'est vrai.
Avec une autre particularité, on le dira, mais ça fait rire. Et quand j'ai dit que c'était toi l'invité, tout le monde a dit « Ouais, mais c'est quoi ? Comment ça se fait ? Comment est-ce possible ?» etc. Et j'ai vu d'ailleurs que ça faisait un peu parler. Hein. J'ai vu sur des comptes spécialisés running et tout qu'ils avaient fait des petites blagues. Je sais pas comment les gens t'ont vu quand ils t'ont vu courir, parce que tu as dû en dépasser en plus quelques-uns, j'imagine. Mais ceux qui avaient des grosses paires de carbone aux pieds qui valaient je ne sais pas combien, te voir les dépasser avec tes tongs, ils ont dû être surpris quand même.
En fait, il y a tout comme réaction. Déjà, il y a ceux qui connaissent un peu, au moins le minimaliste, pas forcément la sandale, mais qui connaissent le minimaliste, ceux qui découvrent ça complètement. Donc, il y a ceux qui connaissent le truc, ça les fait marrer, et puis, on plaisante presque un peu ensemble. Et il y a ceux que ça rend un peu vénère, ouais. Genre, j'ai eu plusieurs qui m'ont dit, en passant, oh le con Ouais, c'était wow. Moi, je ne suis pas retourné, mais voilà, c'est quand même rigolo. Et même dans le public, c'est très rigolo d'entendre, ouais, d'entendre les exclamations. Et pareil, il y a celui qui a lu, je ne sais pas, potentiellement, il y en a qui connaissent le livre Born to Run. Et du coup, bah, ils expliquent à leurs voisins, ouais, alors j'ai lu, c'est les peuples au Mexique qui courent comme ça. Et du coup, voilà, j'entends, ouais, ça dure 3 secondes, hein, mais j'entends juste ça, ça me fait marrer. Et puis, bah, rien que le fait d'entendre ça, en fait, ça booste parce que tu sens qu'on t'a repéré, tu as des encouragements supplémentaires. Donc j'avoue que c'est pas pour ça que je cours en sandales, hein, mais c'est un petit bonus quand même en plus. Et le t-shirt, c'est vrai qu'il se repère bien. Et il faudrait que je revoie si un jour je vais pas le pimper un peu pour, au lieu de Monsieur Strong, il y a Tong qui ressort pour Monsieur Strong. Très très rigolo. Mais voilà, pour l'instant, c'est toujours ce t-shirt là.
Bon, on va le dire, t'es mexicain, t'es présente-toi en quelques mots pour que les gens, d'après ton nom, t'as pas l'air très mexicain en tout cas. Mais...
Non. Du coup, je m'appelle Nicolas Germuller, j'ai 31 ans. Donc en Germuller, effectivement, c'est plutôt consonance germanique. Donc moi, je viens de Lorraine, ma famille vient de Lorraine. J'ai fait mes études à Strasbourg, j'ai travaillé à Paris et maintenant j'habite en Bretagne, à côté de Rennes. Voilà, donc non, j'ai pas du tout de sang mexicain, ou alors faudrait que je fasse le test, mais ça doit être très 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 éloigné. voilà, et puis la course à pied, si je peux présenter du coup là-dessus, donc la course à pied, j'ai découvert ça au collège. Avant, je faisais beaucoup de sport, mais c'était plutôt de la gymnastique, et vu que j'en avais marre d'être tout seul en gym chez les garçons, à un moment donné, j'ai voulu rejoindre un groupe et j'ai rejoint un club d'athlètes voilà, dans ma bourgade à Sarreguemines en Lorraine. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours couru. Alors avec beaucoup d'ébats. Alors pendant mes études, j'ai un peu lâché. J'ai plutôt profité de la vie étudiante, mais j'ai toujours couru un petit peu. Et j'ai beaucoup repris quand j'ai commencé à travailler sur Paris avec mes collègues. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment faire de la route, à découvrir un peu les trails. Et c'est quand j'ai démissionné de mon boulot pour me mettre à mon compte pour du coaching en prépa mentale, où là, je me suis vraiment mis à l'ultra trail. Et depuis, bah, depuis 2 ans maintenant, je cours en sandales. Voilà, j'ai découvert cette pratique-là et qui me plaît énormément. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais ouais, y a plusieurs raisons qui ont fait ce changement. Ouais, y a pas une raison, y a pas un bouleversement, c'est venu progressivement. Et maintenant, je reviendrai pas en arrière. Ça me ferait énormément de mal de remettre les chaussures, rien que dans la tête, mais au niveau des pieds aussi.
Alors. On va le dire parce que ceux qui n'ont pas vu ton temps, quand même, c'est un temps. Enfin, ça fait rêver beaucoup de gens parce que tu es largement au-dessus de la moyenne des temps du marathon sur le marathon de Paris. Tu l'as fait en combien de temps, ton marathon de Paris?
Alors, exactement 2h39 et 26 secondes. Et oui, c'était un temps, effectivement, je pense qu'il en fait rêver plus d'un. Même moi, il me faisait rêver quand je courais déjà en chaussures. Alors le faire en sandales, ouais, ça ajoute vraiment la petite cerise sur le gâteau, quoi.
Ça claque. Surtout que, alors, je crois que t'as affiché le classement global, ça te fait sur la course quand même, non? Ou...
Je crois que je dois être 280, quelque chose comme ça, sur les 54 000 et quelques participants. Ouais. C'est... Sur le papier, ça fait classe.
Non, mais et c'est vrai que ça fait classe, cette histoire. Parce que, alors, on peut le dire, parce que tu dis oui, bon, je me rappelle même pas le temps du vainqueur, le premier, combien de temps il met.
Je crois que c'est 2h05 ou 2h06 cette année. Ouais.
Ouais. Donc, bon, t'arrives 35 minutes après lui, tu peux te dire ouais, ça fait loin. Mais en fait, c'est là où on se rend compte aussi de l'écart qu'il y a entre ces extraterrestres. Là, je disais avec quelqu'un que j'ai eu l'autre jour en coaching, je disais de toute façon, il y a quoi? Il y a 5 ou 10 personnes au départ du marathon de Paris qui peuvent ambitionner de le gagner. Et les autres derrière, ils sont très très loin. Mais c'est vrai que ce temps-là, 2h39, je dis waouh, ça claque hein, quand même. Franchement, il y a un bon paquet de personnes qui rêvent de faire un temps comme ça. Et c'est vrai que dans toutes les personnes qui rêvent de faire un temps comme ça, il y en a plein qui investissent dans des chaussures carbone, qui vont mettre beaucoup de moyens, j'ai envie de dire technologiques. Et je le comprends en fait, qu'ils me disent oh le con quand ils voient débarquer. Quand même.
Ouais. Après, moi, cette démarche de courir avec des plaques carbone qui aident à la performance, moi ça me dérange un peu parce que de base moi je veux savoir le temps que je vaux, mais ouais. De moi pas être aidé, Et de ce que je lis aussi, bah, sur les plaques carbone, il y a aussi beaucoup de... On le met beaucoup en avant par l'évolution des performances, mais visiblement, il y a aussi des personnes qui utilisent les plaques carbone et qui ont des performances moindres parce que, en fait, il faut une foulée déjà adaptée à ce type de chaussures. Parce que, ben, effectivement, c'est une plaque qui renvoie l'effort, mais si on n'a pas la bonne foulée, ça renvoie potentiellement dans l'autre sens. Donc, c'est pas fou non plus. Donc, le marketing met beaucoup en avant ce côté plaque carbone qui améliore les performances, mais elle tait un peu ceux qui ont des performances moindres et ceux auxquels il n'y a pas vraiment de... Il y a peut-être une amélioration, mais tellement minime. Et voilà, après, les plaques carbone, ça fait pas très longtemps qu'il y en a sur le marché. Donc, vraiment, le retour de savoir est-ce que c'est les plaques carbone qui font l'amélioration des performances ou les entraînements qui ont changé ou... en fait, c'est tout ça, je le sors pas de nulle part. Hein. La clinique du coureur, c'est reconnu dans le monde de la course à pied. Ils épluchent un peu tous ces articles-là, et c'est même eux qui disent ça. Ils sont pas à dire que la plaque carbone c'est inutile, mais pour l'instant, les conclusions qu'on en tire, elles sont un peu rapides et attendons de voir un peu les résultats sur le long terme. Donc voilà, rien que déjà sur le plan technique, moi, les plaques carbone, ça me dérange. Je m'en fiche que les autres l'utilisent, mais de mon côté, voilà. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ma performance pure et dure, sans aide extérieure. Et c'est vraiment le temps que je vaux. Là, pour le coup, 2h39 minutes 26 secondes, c'est mon temps, quoi. Et je ne me suis pas fait aider par les chaussures.
Ce qui est drôle, c'est que sur ce marathon, donc vous étiez au moins 3 en sandales. Hein, dont oui. Un que j'ai reçu dans le podcast, en tout cas dans ce point de nutrition, qui s'appelle Olivier Maria, Locar Frenchy. Donc, qui, lui, est juste en dessous des 3 heures. Hein.
C'est
donc,
ça, oui.
Ça galope aussi pas mal. Je t'ai vu en photo avec un troisième bonhomme qui fait quoi, 3h20, quelque chose dans ce genre-là?
C'est ça, ouais, 3h20.
Bon, 3h20. J'ai vu aussi un coureur pieds nus de 71 ans. J'ai pas vu son temps, j'ai pas regardé. Mais je pense qu'il est pas mal non plus, ouais. En tout cas. Donc, ce qui montre aussi, cette histoire, on disait technologie et tout, qui montre, t'es pas un cas tout seul dans ton coin, enfin, je veux dire, t'es pas nombreux. Ah, bon, non, faut pas dire non plus le truc. Mais je veux dire que c'est pas les autres, ils sont pas en 5h ou 6h ou 7h et tout, et toi en 2h39. C'est-à-dire que globalement, quand même, il y a quand même des personnes qui arrivent à courir vite avec des sandales.
Oui, oui, bah après, c'est comme toujours, tout, c'est l'entraînement. Et ces personnes-là, si elles courent comme ça, c'est déjà on n'improvise pas un marathon. Ceux qui le font du jour au lendemain sans s'entraîner, pour moi, c'est une vraie bêtise. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, mais s'inscrire déjà sur un marathon, ces personnes sont entraînées. Et si en plus, elles le font dans ces conditions-là, effectivement, elles se sont entraînées pour. Donc, pour moi, c'est l'entraînement le plus important dans une performance. Donc, s'ils font ça comme ça, effectivement, ils ont l'entraînement pour. Et puis, ils peuvent faire des résultats qui sont sympas. Je sais qu'il y en avait 2 pieds nus. Et j'en ai vu 2 autres passer en plus en sandales. Donc, on était au moins 5 en sandales, 2 pieds nus. Et certainement d'autres dans cette foule de monde. Et mais les retours que j'ai commencé à avoir là, suite à ce marathon-là, c'est plein de gens qui me posent des questions. Et je pense que c'est quelque chose qui peut attirer par la suite, justement, par cette fuite de ces chaussures ultra techno, ultra chères. Et des gens ont envie de revenir à des choses simples. Pas forcément chercher la performance, mais juste se faire plaisir en courant, avec potentiellement les pieds à l'air. C'est très, très agréable. Et on me pose, enfin, là, souvent cette démarche va dans ce sens-là d'abord. C'est j'ai envie à revenir quelque chose de simple. Et bon, voilà.
On va faire rêver un petit peu les gens. Tu cours en pantasandale, toi?
Oui, pantasandale, ouais.
Donc, tu vas donner le prix de tes chaussures. Et comme ça, tous ceux qui ont acheté une plaque carbone, ils vont quand même voir un petit peu la différence de tarif.
Ouais. Les sandales actuellement, là, elles sont à 80€ sur le site.
Ouais.
Donc c'est 3 fois moins cher. Certains trouvent que c'est cher pour une paire de sandales, mais il faut voir la durée de vie aussi des sandales. Parce qu'une plaque carbone, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais c'est 300-400 km max peut-être. Là, les sandales que j'ai utilisées pour le marathon, c'est celles que j'ai utilisées déjà l'année dernière pour mon précédent marathon. Je les utilise dans la vie de tous les jours et elles ont plus de 1000 km. Il faut savoir qu'il y a des sandales aussi un peu plus spécifiques pour le trail. Celles que j'utilise pour le trail, elles ont plus de 2000 km dedans et je les utilise tout le temps. Bon, déjà quand on fait le ratio kilomètres-prix, on est pas mal. Et l'avantage avec Pantasandale, enfin moi c'est pour ça que cette marque m'a attiré, c'est qu'en plus ces sandales sont faites entièrement en Europe. Donc effectivement, le prix est forcément plus cher parce que la main-d'œuvre est plus chère en Europe. Et donc voilà, moi, ça justifie ce prix, rien que le kilométrage, le fait que ce soit fait en Europe et qu'il y a quand même une recherche au niveau des sandales pour que ça reste, soit costaud, quoi, que ça tienne justement. Et bah, faut le payer, cette R&D. Il ne faut pas regarder que le matériel, comme quoi il n'y a pas grand-chose et que... Voilà.
Donc, non, oui, je vais te faire une blague.
Vas-y.
Je vais te faire une blague. T'as pas fait de trou dans, t'as pas de trou dans le mèche, toi, sur tes chaussures, de toute façon, t'as pas
de problème. Non, j'ai pas de trou dans le mèche.
Le seul point d'usure, on va dire, sur les sandales, quand même, c'est bon, la semelle, bien sûr. Les lanières. T'as changé les lanières ou elles tiennent le choc aussi sur les
non,
kilométrages?
Non, pour l'instant, j'ai rien changé. Il y a que sur les sandales de trail ou au niveau de l'œillet sous la sandale où ouais, ça commence à s'enlever et du coup, il y a un risque que la lanière lâche. Et ce que j'ai fait, bah, parce que j'aime bien réparer mes produits avant de les changer, bah, avec un coup de super glue, c'est passé nickel. Et puis voilà, et j'ai fait, pour dire, parce que je fais aussi des trails, j'ai pas fait que le marathon, mais l'année dernière, j'ai fait l'Infernal Trail des Vosges de 100 km, et je l'ai fait avec cette paire de sandales un peu rafistolées. Donc bah, voilà, hein, ça passe.
Attends, t'es en train de me dire, t'as fait 200 km le trail d'Infernal des Vosges en sandales?
Ouais. Ouais, entièrement. Il y a si vous voulez voir, j'ai refait une vidéo YouTube là-dessus pour revoir mon épopée. Photo à l'appui et vidéo à l'appui, donc je peux pas tricher.
Bon, après, les gens seront pas très étonnés parce que j'ai déjà eu quelqu'un, bon, sandales, on en a parlé. Moi, j'en ai des sandales à la maison. Alors, pas sur cette distance-là parce que faut le dire, faut quand même un sacré entraînement. Et quand même, je pense qu'on en reparlera sur ton histoire des Vosges parce que. Le marathon de Paris, c'est pas le plus plat des marathons, mais on peut pas dire qu'il y ait du dénivelé. Mais par contre, je pense que sur un trail de 200 bornes avec le dénivelé des Vosges, la montée et surtout les descentes, je me demande dans quel état tu avais les jambes à l'arrivée. Parce que sans amorti, on va dire technique, hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment les jambes qui en ressortent. Mais on en reparlera après. Dis-nous juste le modèle, tiens, pour ceux qui. Parce que là, il y en a, ils vont aller chez Panta Sandal, ils vont voir le truc. En plus, elles sont rouges, elles sont belles, et tiens, franchement, ouais. Sorties au short et tout, nickel. Hein.
C'est ça, c'est les Parnassas. Ouais, voilà. Donc, Parnassas, il y a plusieurs coloris, je crois qu'il y a bleu aussi, ou noir classique. Voilà, donc sur la route, c'est mes préférés. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est mes préférés. Ça doit être certainement la couleur qui aide aussi. On va pas se le cacher. Et voilà. Et pour les trails, moi, celle que j'utilise, c'est plutôt les Aros, parce qu'elles ont un bon grip, ça grippe bien. Et puis, ben, quand c'est humide, quand on passe dans des zones humides, ça aide aussi aux pieds à pas trop glisser.
Ouais. Moi, j'ai des Likeios. Avec la petite semelle cuir à l'intérieur, là, elles sont super confortables. Ouais, elles sont jolies, elles sont grises. Et puis, le cuir se tanne à l'intérieur, donc elles changent de couleur. Elles sont très jolies. Elles sont très résistantes. Et il faut le dire, en plus, pour ceux qui se posent la question, c'est des semelles Vibram. Sur le truc. Oui. Et je voudrais pas faire de la pub à Panta, mais bon, quand même, faut le dire, ils sont super sympas sur l'instant. Alors, t'es pas le premier Panta, courant Panta qu'on a eu parce que on en avait déjà parlé sur différents épisodes. Et c'est vrai que je l'avais déjà dit à l'époque. Moi, j'avais un gros doute sur le choix de la taille et tout parce que là, il y a un truc quand même sur qui est pas facile, je trouve. Parce qu'on dit les chaussures à choisir en running, c'est pas si facile que ça. On en parlera sur les sandales parce que. Moi, je trouve que le réglage des sangles n'est pas si simple que ça, mais toi, tu as trouvé le bon truc. Mais ils sont super sympas. Ils m'ont demandé des photos de mes pieds, ils m'ont envoyé des gabarits. J'ai envoyé la photo de mes pieds sur le gabarit et tout pour dire exactement, en disant, vous, il faudrait mieux prendre telle taille, etc. Il y a vraiment l'aspect discussion qui est possible avec eux et tout. Ce qui est appréciable, déjà, parce que c'est vrai que si tu vas au magasin du coin et tu dis, je cours en sandales, il n'y a pas beaucoup de magasins qui vont quand même te dire, qui ont de l'expérience déjà de connaître ce type de course en fait.
Pardon, je bois en même temps. Oui, non, tout à fait. Après, c'est sûr que le réglage, il est un peu complexe au début, je trouve. Après, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait le réglage, ça bouge plus. Mais ouais, au début, c'est un peu... Bon, il faut prendre le temps. Et même, je fais un, deux, trois footings avec et je règle toujours au début. Donc, faut pas tout de suite s'envoyer une grosse sortie, même ça, faut pas le faire. Si vous démarrez les sandales, faites pas ça. Mais voilà, même si vous avez l'habitude déjà du minimalisme et que vous faites une grande sortie, démarrez pas tout de suite une grande sortie avec une nouvelle paire de sandales, attendez de bien réajuster. Ça, c'est un coup, se faire mal bêtement, quoi. Parce que le plus important dans la sandale, effectivement, c'est le lassage autour de la cheville. Et une fois que la sandale est et fait corps en fait avec le pied, ouais, c'est tranquille, hein, on peut tout faire.
Bon, pour ceux qui voudraient essayer des sandales et qu'on prend leur main entre les orteils, tu leur dis quoi?
J'ai jamais eu une ampoule sur les sandales, même pendant les trails. Non, pareil, ça va dépendre du réglage. Et je trouve, une fois que c'est bien maintenu au niveau de la cheville, le pied il bouge très très peu dans la sandale. On met de côté les descentes, on met de côté le fait que ce soit humide, parce que forcément là c'est des conditions un peu spéciales, mais si vous courez sur de la route ou sur des chemins forestiers secs, le pied il va pas bouger. On me le demande souvent si ça fait pas mal entre les orteils, mais absolument pas. Absolument pas.
Combien de fois t'as entendu dire que tu cours en tongs? Juste, t'as compté ou pas?
Oh non, je compte pas. Je vais pas compté, mais je pense que les tongs l'emportent devant claquettes. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il court un boirage !» J'ai fait « Ah !» Ça, c'est pas... Ça, c'est connaisseur, déjà. Non, mais ouais, tongs et claquettes. Ça me fait rire. Je m'en fiche pour du sandale ou pas. Je trouve ça drôle.
Ouais, j'avais dit dans l'intro, alors il y a très longtemps, très longtemps maintenant, j'ai eu Elodie Coxelode sur son expérience, et j'ai dit combien de fois aussi, et j'ai dit c'est coureuse en tongs. Mais c'est vrai, il y a cet aspect-là, et tu vois, j'ai dit, est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Strong et tout, et elles m'ont dit, la réaction, parce que tu sais, j'ai fait une devinette, tu l'as vu le truc, en disant... Sur la photo, il y a mon invité, parce que t'es passé à la télé quand même. Et attends, j'étais déçu quand même, parce qu'ils n'ont pas parlé de tes... Ils commentaient, t'apparaissais à la télé, ils n'ont même pas remarqué que t'étais en sandales. Bref, et que t'avais un super t-shirt. C'est pas grave. Et j'ai dit... Et les gens m'ont dit, waouh, il est en sandales, il est en claquettes, il est en tongs. J'ai pas eu le coup des URH ou quoi que ce soit et tout. Alors, il y en a un, il m'a dit, il n'a pas de chaussettes. c'est qu'un détail, j'ai envie de dire. Mais il y en a qui courent en chaussettes dans leurs sandales. Alors, surtout l'hiver, peut-être que tu le fais d'ailleurs, j'en sais rien.
Oui, un tout petit peu. Après, en Bretagne, il ne fait pas des grands froids non plus. Après, jusqu'à 0 degré, en vrai, je trouve que ça va. On se réchauffe vite, hein. Les pieds se réchauffent vite. Et sinon, ouais, j'ai les chaussettes doigts de pied. Mais voilà, je dois les sortir peut-être 5 fois dans l'année. Voilà. Mais je pense que dans le nord ou dans l'ouest ou quand on est vers les montagnes, potentiellement, on les ressort plus souvent, les chaussettes.
Ouais, il y a des chances. On avait parlé aussi, on avait fait un épisode avec Johan Rock, qui est lui au Canada, alors en plein hiver, et puis qui a fait d'autres trucs aussi un peu fous. Bon, il disait quand même que lui, tu vois, les douleurs entre les orteils, il peut avoir. Et moi, je le dis, parce que tu vois, les miennes, je sais qu'elles sont pas très bien réglées, j'ai toujours des petits soucis. Des fois, ça coupe un peu, tu vois, il y a une tension qui se fait. Donc, je suis en train de faire le réglage. Et je voudrais dire un truc à ceux qui commanderaient après cet épisode des pantasandales. Vous avez des petits élastiques noirs qui sont livrés avec, ne les jetez pas.
Non, parce que c'est ce qui maintient le réglage, oui.
C'est ce qui maintient le réglage. Et moi, la première fois, je ne l'ai pas fait gaffe, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Et c'est là où, tu vois, où Panta, ils ont été cool, c'est que je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ils m'ont renvoyé, ils n'ont rien demandé, ils m'ont renvoyé une petite enveloppe, dedans, il y avait ça. Comme quoi, très cool. Et je le dis, pour ça que quand les gens ils font bien leur truc, quand ils sont sympas et tout, il faut le dire, parce que ça fait partie, en fait, des gens qui sont très, 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 très sympas. Et j'ai acheté mes chaussures, hein, donc je ne suis même pas sponsorisé dans le coup, donc je peux le dire assez tranquillement. Comment t'en es venu à passer aux sandales comme ça il y a 2 ans?
Alors... On a parlé du mesh tout à l'heure, et ben c'est une réflexion que je me faisais au niveau du mesh, parce qu'une fois que le mesh est cassé, globalement ça déforme un peu la chaussure, et il faut changer la chaussure. Et moi j'en avais marre, ben, je commençais à courir beaucoup, à ce moment-là c'était l'année où j'ai fait 5000 km dans l'année, donc ça fait du 13-7 par jour. Ouais. Alors, si on écoute la recommandation des chaussures, ben, il aurait fallu que je change au moins 5 fois de paire de chaussures dans l'année. Donc ça, c'est hors de question. Donc déjà, je l'ai poussé plus loin que ce que la recommandation. Mais je trouvais que ouais, j'ai juste pété le mèche où il y a un peu moins d'amorti. J'en ai marre de changer la paire de chaussures, alors que sinon, elle est bien, quoi. Et du coup, je cherchais une paire de chaussures plus écolo à la base, ou qui dure plus longtemps, ou qui a moyen de changer le truc qui va pas, quoi. Bon, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, si je peux me permettre ce jeu de mots. et à côté de ça, j'avais lu pas mal tout ce qu'était la clinique du coureur avec le minimalisme et la course nue. Et voilà, bah en fait, il y a eu à un moment donné un mix d'idées. Et j'ai vu une photo d'un mec courir en sandales et dit, bah en fait, c'est ça la solution. Bah moins il y a d'éléments, moins il y a de risque de casser et plus ça doit durer. Et voilà, j'ai commandé ma première paire. Alors c'était pas chez Panta d'abord. pour essayer. Et dès le premier footing, ce que j'ai adoré, c'était la course pieds nus, être à l'air libre. Et quand je dis que j'ai redémarré tout doux, c'est que du coup, donc c'était l'année après ces 5000 km dans l'année. Donc j'étais à une moyenne de 10 km jour et je suis repassé à 500 mètres jour. Pour dire que j'ai vraiment fait progressivement pour pouvoir m'habituer à la sandale et pas aller trop vite. Parce qu'il y a une chose que je voulais pas, c'était qu'on me dise « tu t'es blessé parce que tu cours en sandale ». Ça, c'était hors de question. Donc j'ai vraiment mis ceinture bretelle, j'y suis allé vraiment progressivement et la transition m'a pris 9 mois pour retrouver à peu près le niveau que j'avais avant et pouvoir attaquer mes trails, mes marathons et tout comme ça. Donc ce qui m'est venu du coup, pourquoi je suis venu en sandale, donc la première chose c'était conscience écologique, donc j'en suis très satisfait, parce que j'ai doublé la durée de vie de mes sandales, voire plus, vu qu'elles sont pas encore mortes, donc j'en sais rien. C'était le plaisir de courir pieds nus, et le côté aussi, donc grâce à la clinique du coureur, mieux comprendre en fait la foulée naturelle, et je me suis pas blessé depuis 2 ans maintenant que je cours comme ça. J'étais pas un adepte non plus de l'infirmerie avant, mais on me demande souvent si ça va pas faire mal aux genoux, hanches, dos. Ben non, en fait, justement, courir de façon le plus naturelle, justement, ça va protéger ça. Là où il y a un risque à courir en sandales, donc faut quand même mettre ce point d'attention, c'est au niveau de la voûte plantaire, du talon d'Achille et du mollet, parce que forcément ils sont plus sollicités. Donc si quelqu'un a des douleurs à cet endroit-là, faut d'abord soigner un peu ça avec des chaussures, on va dire plus classiques, qui protègent de ça. Et après, une fois que ça s'est guéri, on peut repasser aux sandales progressivement. Encore une fois, le mot c'est progressivement. J'ai un peu enchaîné sur la suite, mais voilà.
Mais t'as bien fait de le dire, le progressif, parce que je pense que la plupart des personnes qui se blessent en passant sont des modèles plus minimalistes. Plus minimalistes, il y a aussi ceux qui juste descendent de drop. Parce que je sais pas comment t'étais de drop avant, t'avais quoi comme chaussures avant?
Je sais plus, j'avais des ASICS, mais assez basses. C'était les modèles de compète que je prenais à chaque fois. Mais il n'y avait pas plaque carbone encore, mais les modèles de compète, donc très très légère, avec très peu de drop, très peu d'épaisseur.
Ouais, donc c'était déjà assez minimaliste, mais c'est vrai que quelqu'un qui arriverait une marque où il y a un drop de 12 qui se retrouve sur des sandales, même si on enlève le côté sandales, il va sur du drop 0, déjà le 1 cm d'écart à l'arrière pour le tendon d'Achille, ça demande un sacré travail complémentaire sur les mollets, donc tu as bien raison de le préciser, parce qu'il y avait une époque, notamment à grande époque Five Fingers, quand y a plein de gens, et puis tous ceux qui ont lu Born to Run se sont dit « on va faire comme ça » et tout. Et après, il y a eu des critiques en disant « oui, mais les gens se blessent ». C'était aussi parce qu'ils passaient de « je cours 10 bornes en 12 de drop, avec grosse semelle, à « je cours 10 bornes en… » presque rien, et d'un coup, forcément, l'adaptation, sans être faite, ça tirait beaucoup. Donc toi, tu dis, t'as mis 9 mois. Ça devait être frustrant, non, au départ, parce que même si t'es content d'avoir les pieds à l'air, ça change tout sur tes distances.
C'était le challenge. Je savais que je voulais durer avec ça, et en fait, je me suis blessé qu'une fois quand j'étais coureur en chaussures, vraiment longtemps, j'entends, et c'était le syndrome de l'essuie-glace. Donc j'ai été arrêté 4 mois. Clairement, ces 4 mois, je les ai tellement mal vécus, je veux pas reproduire ça, quoi. Donc l'objectif, c'était y aller mollo pour ne jamais m'arrêter et pouvoir continuer à grimper. Je préfère mettre plus de temps, mais de pas devoir m'arrêter, plutôt que peut-être d'aller plus vite vers mon objectif et après devoir m'arrêter parce que bobo quelque part. On parlait de progressivité, mais il me semble que le chiffre, c'est que des gens qui vont chez le kiné pour blessure, c'est 80% parce qu'ils n'ont pas respecté une progressivité. Peu importe quoi, hein, parce que moi, si pareil, je repasse aux chaussures demain, si je me refais à faire 10-15 bornes en chaussures sans faire d'adaptation, il y a moyen que je me blesse aussi, hein, parce que c'est une autre façon de courir. Et la progressivité, c'est pour tout. Que ce soit on augmente trop vite les distances, que ce soit on augmente trop vite ses vitesses en fractionné, par exemple, que ce soit trop de D+ d'un coup, qu'on passe de la route d'un coup, on fait que du sentier. Voilà, s'il n'y a pas cette phase de progression, il y a un risque de blessure. Ça ne veut pas dire qu'on va se blesser, mais il y a un plus fort risque de blessure. Et Et voilà, et ce 80%, je trouve qu'il est assez parlant quand même de voir que 80% des blessures, c'est lié à quelqu'un qui va trop vite dans une adaptation, peu importe laquelle, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que bah, on revient après. Alors, toi qui connais la clé du coureur, on parle de la notion de stress mécanique, quantification de stress mécanique, que moi j'ai vécu hein, sur ma première préparation de marathon, quand je me blesse, périostite 15 jours avant. C'est exactement ce que Thomas Laure Blanchet, qui était clinique du coureur, m'avait expliqué avec un petit schéma, du joli petit schéma. Il m'a dit bah, quand on applique du stress, l'entraînement c'est du stress, mais trop d'entraînement, trop de contraintes dessus, c'est trop de stress et le corps ne le supporte pas. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler ça, et tu as raison aussi de le rappeler que c'est valable pour n'importe quelle pratique. C'est pas lié aux sandales, au minimalisme, c'est lié à la pratique sportive et à n'importe quelle activité. Alors là quand même sur cette histoire d'adaptation, tu dis tu as retrouvé donc à peu près au bout de 9 mois tes performances à peu près, c'est ça.
Ouais.
Mais est-ce que tu as constaté quand même que pendant ces 9 mois il y a quelque chose qui changeait dans ta manière de courir, dans ton corps, dans tes pieds, dans tes jambes, dans je sais pas quel... Est-ce que t'as changé ?
Oui, au niveau de la fréquence des pas, ça c'était assez flagrant. On voit, on a l'impression que je fais plein de petits sauts de puce là. Donc moi, je crois que je dois être à 190 pas minute, je pense à peu près.
Ah ouais.
Quelque chose comme ça. Donc vraiment des plus petits pas, très rapides. Donc ça c'est le plus, en tout cas visuellement c'est ce qui se repère le plus. Et au niveau de l'écoute, j'ai une foulée beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus légère. Et ben parfois je fais peur à des gens parce que quand j'arrive derrière eux ils m'entendent pas. Et j'ai trouvé ça fou aussi au marathon, le nombre de coureurs qui couraient à mon niveau. Et il faisait un de ces bruits, je dis waouh 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 waouh. Si toi t'as pas mal justement au genou, hanche, dos prochainement, ça va bientôt arriver. Et ouais, ça c'est assez sympa aussi de pas faire de bruit. Hein, mais toi. Ça. Et alors je sais que certains qui courent en sandales remarquent qu'ils ont les pieds qui s'affalent un peu. Je l'ai pas trop remarqué moi. Voilà, moi c'est surtout la foulée et le à écouter quoi. Ça les plus gros changements, voilà.
Moi je te confirme l'écoute parce que et puis je le vois parce que et j'ai, en plus c'est même pas une question de poids, je crois qu'il faut le dire aux gens. Parce que j'ai devant la maison, j'ai une petite voisine qui passe et je l'entends. Je sais que c'est elle au bruit. En fait j'en ai deux, j'ai deux femmes qui passent dans la rue dont une, elle fait un bruit quand elle court, ça fait des clac 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 clac, et quand je la vois courir je suis pas étonné parce qu'en fait on dirait qu'elle tape le sol super fort. Alors elle, j'ai même pas besoin de compter les foulées, je sais qu'elle est pas à 180, 170, je sais pas quoi. Et j'en ai une autre aussi qui a un peu le même genre de bruit très très fort, mais qui vient plus de sa manière un peu, tu sais, de, je pense qu'elle a une grosse attaque talon, tu sais, un peu tac tac tac, avec des chaussures trail qui sont un peu raidasses, comme je dis moi. Et je pense qu'il y a un espèce de cumul, mais je les entends et je peux garantir, en tout cas il y en a une, elle fait au moins 30 kilos de moins que moi, ça c'est sûr, tu vois, elle est vraiment poids léger et elle fait un bruit mais hallucinant. Et l'autre jour au salon du running, j'ai fait un test, il y a un tapis, tu sais, il y a des podologues, il y a un tapis, et devant moi il y avait une jeune fille aussi qui court et qui venait pour une périostite. Elle monte sur le tapis, elle a commencé à courir et j'ai dit tiens, ça me rappelle mon ancien moi qui faisait du bruit. Et ça n'a pas raté. Le podologue, il l'a regardé, il a amené un stagiaire, tu sais, il a dit hop, il lui a montré l'oreille, il a dit écoute, rien qu'à ça, il voyait déjà d'où ça venait. Et après, analyse de foulée, avec leur caméra, en plus, ça montrait que le talon était rouge à chaque pause, donc ça n'a pas raté. Mais c'est cet élément du bruit, je trouve que c'est super intéressant de vraiment en parler, parce que même des chaussures, des gens qui courent en chaussures devraient faire attention à ce bruit-là. Oui, c'est-à-dire que s'ils font trop de bruit, il y a un problème.
Moi, c'est un des premiers conseils que je donne à quelqu'un qui démarre ou qui veut s'améliorer. Alors, pas pendant les séances de vitesse, parce que là, on est concentré sur aller vite, mais dans des footings tranquilles, c'est faire attention à pas faire de bruit. Qu'on enlève les écouteurs et on fait attention à ça. Et ce que j'aime bien rajouter, c'est dire, bah, toi, le bruit que t'entends, eh ben, c'est une onde de choc que t'as aussi dans les jambes. Et bah, les ondes de choc, on sait que c'est pas foufou et que, bah, au niveau des articulations, si tu commences à avoir mal au genou, c'est à cause de ça. Et moins tu fais de bruit, moins t'as de bruit qui remonte, on va dire, dans ton corps. Et c'est cool, quoi. Enfin, tu utilises du coup cet effet ressort. Un ressort, ça fait pas de bruit quand tu le compresses. Ben voilà.
Ouais. Et puis moi, je trouve que faire peur aux gens, c'est drôle. Sur les chemins.
Non, je suis en plus des fois je cours pieds nus, mais totalement. Ouais. Alors là c'est encore pire parce que là ils m'entendent pas du tout arriver. Et tu sais les trucs, oh le con. Et j'ai déjà eu ce truc là parce que c'est vrai que bon après je me retourne pour voir quand même s'ils ont pas fait une crise cardiaque quoi, quand c'est pieds nus, parce que des fois ils sursautent vraiment. Mais c'est vrai que sur les chemins ça m'amuse beaucoup d'arriver d'avoir cette notion là. Et je trouve qu'en plus en trail ça rajoute un côté intégration dans la nature. Alors je sais pas si tu cours tout seul ou pas sur les trails et tout, mais je trouve que c'est un peu le sentiment d'arriver d'être dans l'environnement, de pas rajouter gros boum 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 etc. À la limite je me dis alors je sais pas s'ils s'en foutent ou pas les lapins et compagnie, mais je me dis au moins on profite, tu vois, on est en entendant mieux les oiseaux, on est plus dans l'univers en fait.
Oui, ouais, tout à fait. Bah ça c'est pareil, c'est un des changements que j'aurais pu noter tout à l'heure dans la foulée, donc j'ai pensé plutôt route, mais c'est vrai qu'en trail le gros changement, c'est sentir tout ce qui se passe sous le pied. Et du coup, d'avoir une foulée qui s'adapte beaucoup plus. Toi, même quand il y a un caillou, j'y vais pas franco, quoi. Maintenant, je vais l'épouser tranquille. Et puis, donc pareil, ça se fait progressivement. Donc, les muscles sous le pied, on sent qu'il y a... C'est pas de la corne, hein. On sent que c'est plus costaud. Et que, voilà, le pied va adapter, la voûte plantaire va s'adapter au sol. Et c'est vrai que c'est ultra agréable en fait. Au début, ça fait bizarre parce qu'on n'a plus cette sensation de sous-pied. Donc on a l'impression qu'on a mal tout le temps. Mais à force, ça vient. Et puis limite, maintenant, je trouve ça plus agréable de sentir les choses que de rien sentir sous la voûte plantaire, quoi.
Ça, c'est sûr que les textures, tu les sens différemment. Moi, il y a une fois quand même, en Five Finger, j'ai pris un caillou, mais c'était à mes débuts. J'ai tapé fort et j'ai dit, mais. Qu'est-ce que ce caillou fout là? Et en fait, il est là depuis des millénaires, probablement, parce que c'est un gros caillou, un bout de gros rocher qui est dépassé. Donc, il est là depuis extrêmement longtemps, mais je ne l'avais jamais vu, avec les chaussures, forcément. Et là, d'un coup, c'est vrai qu'avec la semelle, ben, ça m'a pris à faire un peu plus attention, à savoir où je posais le pied, même si je t'avoue, il y a quand même des terrains. Tu sais, moi, j'ai des chemins agricoles, les agriculteurs, ils ont mis des espèces de gravier un peu gros, un peu rond là. Ça fait mal au pied quand même. Je trouve, tu vois, ça fait un petit peu mal au pied.
Ah bah oui, il n'y a pas que des avantages tout le temps. Moi, les endroits où je trouve ça le plus douloureux, c'est globalement quand c'est tout plat et que tu as un petit caillou. Parce que celui-là, tu le sens direct. Quand il y en a tout plein, au final, ça va. Mais quand tu as quelque chose de tout lisse et un petit caillou au milieu, bon, c'est le petit poids, quoi. Hop. Ouais, ça, c'est. Et j'avoue que quand j'ai fait le 215 km, sur la fin, j'en pouvais plus de ces petits chemins-là, justement. Ouais. Relativement plat, mais avec juste des tout petits cailloux, ça commençait à faire mal.
Mais je sais pas si tu as lu le livre de Ken Bomb Sexton sur la course pieds nus, courir à pieds nus, qui est quand même un livre qui est très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent au minimalisme, à la course, et la technique aux courses, et la technique au fonctionnement du corps, il raconte aussi que sur des courses, il s'était fabriqué des sandales de un petit peu de comme ils avaient pu, parce qu'il y a des chemins avec des petits cailloux, justement, ces fameux petits cailloux là qui sont très pointus, et qu'ils en avaient je sais pas combien de dizaines de kilomètres à faire là-dessus, qu'ils disaient on peut pas courir pieds nus là-dessus. Et c'est vrai que même en sandales, je pense qu'il y a des cailloux, au bout d'un moment, on en a pour en avoir marre, ça peut être un peu pénible. Mais par contre, là où il est très intéressant, t'as parlé tout à l'heure de l'effet ressort. Et ça, c'est un truc. Je pense que les gens néglige, ou en fait, moi, je le savais pas, on n'a pas compris à quel point, en fait, notre jambe et notre corps, c'est un ressort. Ça, c'est super intéressant. Tu le ressens comment, toi, cette histoire-là? Tu te rends compte de la différence, en fait, quand même, que ta course a pu changer, parce que tu parlais de la fréquence, mais le côté ressort.
Alors, je pense que même en chaussures, avant, j'avais quand même une foulée qui était plutôt vers l'avant. Donc on parle souvent d'attaque talon, attaque avant-pied, médio-pied. On dit souvent aussi l'attaque talon c'est pas bon. Bon, faut moduler un peu ça. Faut pas s'arrêter à la photographie de l'attaque. Parce que moi en fin de course je suis aussi attaque talon, mais en fait le problème de l'attaque talon, si on la prend pure et dure, c'est tout le poids du corps qui vient sur le talon. Donc en fait c'est qu'on arrive de trop loin derrière. Et du coup, on bloque l'effet ressort parce que le pied va être... la jambe va être tendue au sol. Et du coup, tout le poids de corps, toute la vitesse, ça vient sur le talon. Alors que quand on est plutôt sur l'avant du pied, donc médio-pied ou avant-pied, la tension, elle va se mettre dans le tendon d'Achille, elle va se mettre dans les tendons au niveau des genoux, et ça va, quand on va se repropulser vers l'avant, c'est une énergie qu'on va pouvoir restituer. Et donc voilà, en fait, une attaque talon, c'est pas un problème, faut regarder quand est-ce que le poids du corps, où est-ce qu'il s'applique, est-ce que c'est sur le talon ou est-ce que t'as déjà basculé vers l'avant. Et il se trouve que bah voilà, on peut avoir une attaque talon et en fait on est pris par la vitesse et quand le poids de corps arrive, on est déjà au-dessus du talon. Et voilà, donc en fait on est en train de charger son ressort qui est le tendon d'Achille, les tendons au niveau des genoux. Et c'est de l'énergie qu'on va pouvoir restituer, ce qu'on appelle l'économie de course. On entend beaucoup ça. L'économie de course, c'est quoi ? C'est une partie de l'énergie qu'on a utilisée pour avancer, et ben on continue à l'utiliser. Alors qu'une attaque talon, on la prend brutale. On perd toute cette énergie et il faut pouvoir la refaire. Du coup, en fait, c'est beaucoup plus fatigant de courir comme ça et on va moins vite. Donc déjà, point de vue bien-être, c'est pas fou. Et en plus, point de vue performance, c'est encore moins fou. Donc ouais. Voilà.
C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier un peu de ceux qui disent « Oui, les champions, il y en a qui attaquent talon, etc. Et » tout. C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. S'ils courent à cette allure-là, de toute façon, c'est qu'ils ont une économie de course qui est vraiment exceptionnelle, parce que pour ce qu'on disait, hein, c'est qu'entre toi et le vainqueur, il y a quand même 35 minutes d'écart ou 30 minutes. Donc, ce qui paraît à la fois pas beaucoup sur la durée globale, mais qui est quand même énorme à venir combler tout. Donc, ça veut dire que même s'il talonne, à un moment donné, il a quand même une économie de course, il y a une puissance qui est juste remarquable. Et ce qui est vrai, c'est que pour ceux qui se posent la question, par contre, ça là, il y a un truc intéressant, c'est que si vous pouvez vous filmer, ce que tu disais, la jambe tendue devant, là, ce qu'on appelle l'overstriding, c'est d'arriver la jambe tendue loin devant et quasiment comme un bout de bois, en fait, enfin, un bout de ferraille. Hein, et donc, et là, franchement, c'est là où il y a le choc qui est maximum. Et c'est là où il y a une grosse différence. Hein. Il y en a qui talonnent, mais où le pied, finalement, il arrive à la verticale quasiment du corps. Et puis d'autres, il arrive très loin devant. Donc, si vous filmez, vous avez votre pied qui part devant, ou vous avez l'impression d'arriver jambe tendue, là, c'est vrai. En plus, de toute façon, tu ne peux pas le raser, c'est là que tu fais du bruit. Donc, c'est ça aussi. Ça fait partie des choses.
Tout est lié, ouais. Ouais.
Et c'est là aussi où il y a une espèce de... Ben, le ressort ne peut pas fonctionner parce que forcément, c'est tout tendu. C'est là aussi où il y a l'onde de choc au maximum. C'est là où on tape plus fort et tout. Et c'est là aussi où ça freine, où on n'avance pas comme on veut. Donc, je pense que si vous avez l'occasion de vous faire filmer, regardez, si vous arrivez avec la jambe très tendue devant, là, il y a un petit truc. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est quand tu dis que tu as une cadence de 190. Généralement, on dit 180. Tu l'as travaillé spécifiquement ou elle est venue naturellement, cette cadence?
Ouais, je ne l'ai pas travaillé spécifiquement. Même là, je te dis 190 parce que je crois que je suis à ça. J'avais regardé une fois parce qu'on m'avait demandé et puis je devais être là-dessus. Mais non, je ne l'ai pas travaillé spécifiquement, ça vient tout seul en fait, en courir en sandales. Alors je ne dis pas qu'on sera forcément à 190, et là c'est encore en fonction de chacun, on sera peut-être plus à l'aise à 180, 170. 180, ça reste une moyenne. Hein. Mais non, je ne l'ai pas travaillé, c'est venu naturellement. Et je préfère me concentrer plutôt sur le bruit, parce que ça c'est facile et il n'y a pas besoin de la montre. Et en fait, de se focaliser sur le bruit, forcément on va faire des plus petits pas.
Ouais.
Et puis voilà.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu fais pas de bruit, en fait, comme tu as une grande fréquence et des petits pas, bah, en fait, tu as un temps de contact au sol aussi qui est plus léger, ce qui explique que tu fasses moins de bruit. Enfin, c'est là où la mécanique. Alors, je dis, on va faire un épisode dans pas très longtemps avec quelqu'un qui fait de l'analyse de foulée, hein, avec des applications, etc. Ce qui est assez intéressant parce qu'il y a plein d'autres éléments qui jouent dans le placement du corps, dans les bras, dans tout un tas d'ensemble de choses qui jouent, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas réduire non plus le fait de dire je mets des sandales et puis d'un coup j'ai une foulée qui va se corriger, parce que il y a aussi le fonctionnement des bras, il y a aussi tout un tas de choses qui jouent. Mais c'est vrai que le fait de courir sandales quand même t'oblige à un moment donné, tu ne peux pas te taper. On en avait parlé il y a très longtemps dans l'épisode avec Sherwin d'Altra, en disant si tu sautes et tu retombes sur les talons, tu ne vas pas le refaire 10 fois. Quoi. C'est un truc, tu ne vas pas le refaire. Alors, ça t'oblige à un moment donné à adapter ta foulée. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient faire l'expérience, et là, il va faire beau, aller sur des terrains de foot, courir pieds nus, vous allez voir que normalement, vous ne talonnez pas longtemps. Vous allez revenir sur une foulée qui est beaucoup plus, ce qu'on appellerait, naturelle. Et c'est ça qui est intéressant. Tu avais lu Born to Run ou pas?
Oui. C'est pas, comme je disais, ce n'est pas grâce à ce livre que je me suis mis aux sandales, mais oui, je l'ai lu après. Et ouais, c'est... il y a beaucoup d'enseignements dessus, et comprendre la course à pied, en tout cas l'évolution, c'est très très cool.
Tu retrouves un peu ce qui, dans certains trucs, parce que Born to Run, en fait, peut-être que c'est les gens qui l'ont pas dit, ils ne se rendent pas compte. Il y a une enquête où ils parlent, ils montrent aussi, ils critiquent un peu ce qui se fait chez Nike, ils se moquent un peu d'eux aussi hein, sur certains aspects et tout. Tu retrouves un peu ce qui raconte là-dedans, dans toi, ta pratique?
Ouais, ça commence à faire. Bah, du coup, je l'ai lu il y a 2 ans, donc je ne sais plus trop. Ouais, je pourrais plus te dire.
Non, mais c'est pas grave, laisse, de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague minimaliste après Born to Run, quand même. Il y a même les marques et tout qui sont lancées. Un des héros a lancé sa propre marque et tout. On avait parlé justement sur ces différents modèles. Le point qui est vrai, ce qui racontait quand même, hein, c'est de dire que bah, finalement, les marques, elles le savent un petit peu, certaines. En tout cas, hein, c'est ce qu'il dit dans son enquête. Même si, c'est vrai que ça fait discussion, parce que tu as dû croiser, je pense, des gens quand même qui te disent « Attention, tu vas te blesser, c'est dangereux, tu serais mieux avec de la mortif. » Il y a quand même des gens qui sont résistants à ce truc-là, qui disent « Non, si on a mis des semelles, et moi je peux le dire parce que je connais des gens qui m'ont dit ça, et qui l'ont même dit dans le podcast, qui ont dit « Oui, non, mais si on a mis des semelles sur les chaussures, c'est parce que ça a un intérêt. » Si on l'aurait pas fait.
J'ai vu récemment une vidéo qui expliquait un peu Nike, comment elle a révolutionné le monde de la course à pied, et j'étais surpris de en fait les innovations, c'était pas ils sont pas basés sur des scientifiques. Il dit qu'il fallait trouver quelque chose qui soit une innovation, et quand ils l'ont trouvé sur un coin de table, ok, on le met en application, c'est parti. Et je me suis dit, oh, attends, il y avait quand même un minimum de scientifiques dedans. Non, non, rien du tout. Mais après, c'est le pouvoir du marketing. Hein. C'est arriver à comprendre, à faire croire aux gens que c'est ça qu'il leur faut. Et puis, bah, c'est bien ancré. Et c'est comme ça. Je sais plus, j'avais vu un autre truc, rien à voir, hein, mais c'était sur le repas. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et je sais plus où j'avais vu ça, mais que c'était que le magazine qui a sorti ça en premier, appartient à un certain monsieur... Bah, Cornflakes, enfin celui qui a créé...
Ouais, c'est l'inventeur de Kellogg's, c'est Kellogg's.
Ah, Kellogg's, voilà, c'est ça. Et je dis, mais c'est fou, alors que moi, je croyais en plus ça, mais on me l'a tellement rabâché, je pensais que c'était normal. Donc effectivement, c'est des fausses croyances à faire tomber, parce que c'est difficile, hein, mais je comprends hein, que la remise en question, elle soit difficile pour certaines personnes, quand on a toujours cru que c'était ça, et que même des professionnels de santé y croient aussi, donc... Et le disent, du coup, bah, on a envie de croire le professionnel de santé.
Non, puis je pense que ça semble logique, en fait. C'est-à-dire que les gens, tu dis, je mets une grosse semelle dessous, donc forcément, ça protège, c'est tout mou. On voit quand même hein, que la tendance minimaliste dans les chaussures, il y a beaucoup de marques qui l'ont quand même abandonné, qui sont revenues sur ce qu'on appelle le cushion. Alors, extrêmement confortable. Faut rappeler, on parlait de Nike tout à l'heure, mais aux États-Unis, la marque ou les marques qui vendent le plus, c'est des modèles plutôt très maximalistes, très épais, grosses semelles, etc. Le succès de Hoka est aussi basé beaucoup sur ces notions-là, hein, qui sont du confort, etc. Donc, c'est vrai que dans la tête des gens, je pense que c'est assez logique, cette histoire-là. Hein, bon, si ce n'est qu'on oublie un petit peu l'évolution, de se dire que finalement, à l'échelle de la planète, ces semelles épaisses, elles ont une toute petite frange, une petite virgule, une petite seconde du monde, quoi.
C'est ça, ouais. Bah oui, je crois 50, 60 ans. Allez, 70 ans, peut-être. Non, c'est ridicule, ouais. C'est ridicule. Et, ouais.
Moi, je pense, écoute, tu sais, je pense quand même qu'elles ont un avantage, c'est qu'il y a des gens qui n'iraient pas courir s'ils n'avaient pas des grosses semelles. Parce que ça les rassure.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben... Oui, si la course à pied a eu un essor comme ça, c'est aussi grâce à eux. Faut pas leur enlever ça quand même. Mais ouais. Et puis après, bah il y a l'effet masse. Hein. Si tout le monde a ces chaussures-là, on dit que c'est ça qui est bon. Par contre, je sais pas. C'est un Kipchoge qui un jour vient et éclate un record en sandales. Peut-être que les gens ils diront ah. Bon en fait, peut-être que oui.
Eliud. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu le fais. Viens nous claquer un record en ce moment. Il faudrait rappeler quand même, alors j'ai pas le temps de Bikila quand il était champion olympique, mais
2h15.
Ouais. Il était pieds nus. Ouais, son premier marathon olympique, sa première médaille olympique, il était pieds nus. Et bah oui, la deuxième est en chaussures, mais le premier est en pieds nus. Et il était champion olympique. Quand même, on peut me dire oui, c'est les années 60, etc. et tout. Mais n'empêche, 2h15, quand même. On n'est pas sur des temps en disant oui, mais à l'époque, ils couraient le marathon en 3 heures, maintenant tout le monde court plus vite. Non, 2h15. Quand même, c'est là où aussi on voit hein, l'évolution, les minutes à ce niveau-là, elles gagnent pas. Mais il faut du temps quand même hein, pour les gagner, les records progressent. Parce qu'on a l'impression que les records avancent vite. C'est vrai. L'an dernier, on a vu la fille là, qui a battu le record de 2 minutes chez les femmes en marathon et tout. On dit putain, ils explosent les vitesses, les trucs. Mais à l'échelle du temps, quand même, ça met du temps. Ces records-là, ils mettent beaucoup de temps. Il y a des accélérations. Et puis, un jour où quelqu'un a passé les 2 heures et tout le monde dira maintenant, on sait que c'est possible et ça va accélérer. C'est un peu l'histoire du mile aussi avec Bannister, où personne pensait qu'on pouvait courir le mile en moins de 4 minutes. Et d'un coup, il le fait. Il y en a plein d'autres qui le font derrière, alors que ça fait des années et années que personne n'y arrivait. Donc, il y a des espèces de frontières. Donc, peut-être que. Effectivement, un jour, peut-être qu'un coureur un peu visible, mais le problème, c'est que Panta, par rapport à Nike, les budgets pour sponsoriser Kipchoge, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Je pense que Kipchoge, il a un salaire qui est supérieur au budget de Panta. Quoi.
Ouais, non, c'est pas la même, ouais, ça, c'est sûr.
Alors, je vais revenir sur ton histoire quand même, parce que sur l'histoire du trail là, de 215 km en Alsace. Moi, je t'ai dit, quand tu me dis ça, alors tu as dit qu'à la fin, tu en as un petit peu marre des petits cailloux et tout. Moi, je me dis quand même, pour supporter les descentes, je ne m'inquiète pas pour les montées, mais les descentes, je me dis, à la fin, quand même, musculairement, tu as dû morfler quand même dans l'histoire, non ?
Les descentes, je vais beaucoup plus lentement que quand je suis en chaussures, parce que je suis obligé de faire plus attention. Effectivement, en descente, on est souvent bien sur l'arrière pour ralentir. Donc ça non, c'est pas possible en sandales, donc non ouais, je ralentissais beaucoup, mais pour le coup donc effectivement je suis allé moins vite, mais ce qui défonce en trail c'est les descentes, c'est pas les montées, et le fait d'y aller tranquille, et ben en fait je veux dire sur le long terme je me suis beaucoup plus protégé, et en fait j'ai récupéré extrêmement vite de l'infernal. Moi, j'ai parcouru tout de suite après, mais en soi, je pense que 3-4 jours après, j'aurais pu y aller, alors qu'avant, quand je faisais des ultras, ça, c'était pas possible, quoi. Donc, je me suis beaucoup protégé au niveau, toutes les jambes et tout, là, quand ça brûle, là, ça fait l'espère.
Ouais, les quadrilles, là, ils brûlent.
Et là, ça, je l'avais beaucoup moins. Et voilà, c'était un mal pour un bien. Donc, aller moins vite, mais au final, je me suis préservé et j'ai pu aller. Enfin, je me suis préservé, quoi.
Mais t'as un petit côté compétiteur quand même et tout, envers toi. Dans les descentes, tu t'es fait griller par plein de gens, non ?
Ouais, mais je les remonte dans les montées. Ce n'est que partie remise, les gars.
Non,
après, il y a des écarts qui se font. Parfois, je me faisais doubler, parfois non. Non, ça fait partie du truc. Et puis, sur des courses aussi longues, en fait, si je commence à regarder les gars qui me dépassent ou les gars que je dépasse, le 215, on le finit pas. Hein. Il faut arriver à s'écouter. C'est pour ça que j'aime beaucoup les courses d'ultra. C'est qu'il faut plus s'écouter que regarder où sont les autres. Oui, je suis compétiteur. J'aime pas qu'on me dépasse, mais je me dis, bon, en fait, dans ma tête, c'est on se retrouve tout à l'heure, quoi. C'est pas, on se revoit plus.
Bon, tout à l'heure, tranquillement, pendant que vous essayerez de faire tremper les pieds dans je sais pas quoi pour essayer de les refroidir. Voilà. tu t'es pas fait mal quand même, tu vois, sur parce que les gens vont dire sur des trails, il y a des cailloux, les orteils qui peuvent cogner, les chaussures trail ont toujours des protections, etc. T'as pas eu des chocs, des choses comme ça ?
Non, alors sur le 215, rien du tout. Ce que j'ai eu, c'est l'irritation entre un peu humide et du sable, donc au niveau des jointures des orteils, là ça. C'était un peu ouvert, mais ouais, normal, quoi. Mais c'est pas une blessure en tant que telle, c'est juste de l'irritation. Sur les 2 ans de pratique, j'ai tapé une fois un caillou. Alors, c'était impressionnant parce que ça saigne, mais ça reste que du sang. C'est impressionnant, mais en soi, je préfère ça que de me tordre la cheville. Et je trouve que courir en sandales, en fait, t'as un côté inconscient où ton cerveau, il fait beaucoup plus gaffe où est-ce que tu mets les pieds. Et là, le moment où j'ai tapé un caillou, c'était en pleine nuit et je regardais pas devant moi, je regardais ailleurs. Et voilà, le coup de massue est arrivé à ce moment-là. Donc non, je me suis jamais fait mal. C'est plus dangereux et j'ai peur. Faut pas croire que je suis un casse-cou non plus. J'ai peur de me faire mal, mais je pense que cette peur, elle est essentielle pour justement faire plus attention. Donc ouais, je dirais qu'en fait, c'est la peur de taper un caillou qui fait que je fais beaucoup plus attention que quand tu es en chaussure. Bon, tu dis, c'est bon, la chaussure, elle est là, et ben, crac.
Ouais. Ouais.
De toute façon, on le voit, quand on fait de la randonnée, quand les gens se font mal, c'est pas en plein milieu, c'est souvent sur la fin, quand on se relâche, on dit, c'est bon, on est arrivé, et là, clac, c'est là où on se fait, même sur le trottoir, on est même plus, on a fini la randonnée, c'est sur le trottoir. Ouais, c'est parce qu'on dit, c'est bon, c'est tranquille, c'est terminé, on oublie ce côté peur, et ben voilà, crac, c'est comme ça.
Ouais, et puis même en accident de voiture, on sait que les accidents de voiture ont souvent lieu pas très loin de la maison, même après un très grand voyage, etc., parce que c'est une question d'attention. Donc c'est vrai qu'il y a un gros facteur, et c'est vrai que quand tu sais que tu peux te cogner le pied et que ça va faire mal parce que tu n'as pas de protection, naturellement, tu demandes beaucoup de protection, et notre cerveau, de toute façon, il est là pour nous ramener en vie. Hein. Donc à un moment donné, ça passe. Tu vois, il y a quand même un truc, des fois, je me pose la question. Je lui dis, t'as pas peur de croiser, genre, un serpent, tu vois, surtout la nuit, tu vois, des trucs comme ça, là, tu vois, ou des tiques, ou, enfin, tu vois, c'est des arbres un peu hautes, ou ouais, tu dis, bah, il faudrait mieux avoir des chaussettes hautes que d'être quasiment à poil, mais tu cours pas à poil, quand même. Tu m'as compris, quoi. Enfin, ouais, ça se trouve, tu cours à poil, hein, quand on le voit pas, mais j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, mais.
J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question. Je ne vais pas me la poser.
Ouais, non,
non, mais ouais, bah la nuit, mais ça, même en chaussures, hein, j'ai toujours peur de croiser un animal parce que je ne sais pas comment il réagirait. Mais j'ai pas plus de peur en chaussures qu'en sandales vis-à-vis de ça. Ouais, un serpent, même en chaussures, j'aimerais pas le croiser, quoi.
Bon. Ouais, mais avec tes chaussures rouges, et maintenant qui sait que t'es ce strong, après tu secoues. Alors tiens, et je peux quand même, il faut que je te demande d'où ça vient cette histoire de Monsieur Strong, parce que ton t-shirt, c'est toi qui l'as fait. Il n'existe pas Mr Strong dans les Monsieur Madame, si?
Si, il existe Monsieur Strong.
Il existe. Les...
Ouais, c'est Monsieur Costaud en français.
Ouais.
Et puis je l'ai trouvé. Ça fait longtemps que je l'ai ce t-shirt. Je pense que c'est quand j'ai commencé à bosser en tant qu'ingé sur Paris, où j'avais trouvé ce t-shirt qui était rigolo et je l'avais pris. Et maintenant, je le prends que pour mes courses. Que pour mes courses. À l'entraînement, je ne le mets pas. Et que pour les courses, je le sors. Et voilà. C'est juste un t-shirt que je trouvais rigolo. Et puis, je m'en sers maintenant pour qu'on me reconnaisse.
Voilà. Non, mais c'est ça. Parce que c'est en fait un petit peu. Alors, je dirais, c'est pas ton uniforme, mais parce que tu as le short rouge, les sandales rouges, le t-shirt Monsieur Strong qui est rouge, donc t'aimes bien le rouge, ça on a compris, mais c'est vrai que t'es reconnaissable, parce qu'on a vu plein de photos où t'en as repartagé plein, où on te voyait, on pouvait te repérer. Je t'ai dit, moi je t'ai vu à la télé, alors à l'arrivée, pas pendant la course, mais à la télé, sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, t'étais quasiment le seul debout, il y en avait plein qui étaient assis, morts et tout, hein, quand même. Ouais. Même, je crois que c'est Cronroux a fait une blague en disant, il y en a un, il y a une position, attention, où il pouvait se faire un peu, c'était un peu dangereux à l'arrivée. Les autres, ils étaient, toi, tu discutais, peinard à l'arrivée, tout. T'en avais un petit peu sous la pédale ou pas?
Je pense. En fait, quand j'ai su au Trocadéro que j'étais sous les 2h40, il y avait encore une petite bosse après de la descente, donc je savais que ça rentrait. Et la fin, je voulais juste profiter du public et ça faisait mal. Mais je suis pas allé chercher, je pense, autant que les gars qui étaient affalés sur la ligne. Parce que voilà, je savais que le 2h40 était rentré et puis grappiller une ou deux secondes, ça m'intéressait pas. Je peux peut-être me tenter de dire ça, mais non, mais sous les 2h40, c'était l'objectif. Voilà, c'était surtout profiter, avoir des beaux souvenirs aussi. C'est pour ça qu'on fait le marathon. C'est pas pour se souvenir de rien et d'avoir fait un chrono, mais de rien se souvenir. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Dans le dernier kilo, je regarde beaucoup autour de moi. Mmh. Et voilà, je profite.
Ton record, il était à combien?
Alors, c'était en chaussures en 2018. C'était sur ce même marathon et c'était 2h46. Mmh. Et en sandales, c'était mon premier l'année dernière que j'avais fait à Nantes, c'était 2h56. Ouais. De toute façon, c'était l'objectif cette année. Là. L'année dernière, j'ai fait mes premières courses en sandales pour voir que je pouvais courir longtemps et un peu partout. Et quand j'ai fini l'Infernal l'année dernière, je me suis dit, maintenant, j'ai envie de montrer qu'on peut aller vite en sandales. Et du coup, je veux battre tous mes records sur route en sandales. Donc, j'ai fait, dans ma préparation marathon, j'ai fait le 10 km, le semi, le marathon, et j'ai explosé tous mes records partout. Donc, pour donner des refs, j'ai 34 minutes au 10, une heure, juste en dessous d'1h15 au semi, Et ben voilà, moins de 2h40 au marathon. Donc ça c'est fait, c'est bon. J'ai plus aucun record en chaussures, tout est en sandales maintenant.
Ouais, t'es comme les nageurs qui nagent en combinaison, ouais, toi, que leur record est homologué.
Ouais, c'est ça.
toi, t'as les deux lignes et tout. Donc ça veut dire qu'à chaque fois t'étais meilleur en sandales. Alors il y a une question à laquelle tu ne peux pas répondre, c'est est-ce que tu aurais été peut-être encore plus rapide en chaussures ? Ça, tu n'auras jamais la réponse ?
Bah non, on ne le saura jamais parce qu'il faudrait exactement les mêmes conditions, la même préparation, dans l'aspect mental aussi. Est-ce que ça changerait tout ? Est-ce que... Bon bref, je ne pourrais pas savoir. Et pareil, est-ce que je serais allé un peu plus vite mais que j'aurais pu craquer sur la fin parce que... Bon bref, j'en sais rien, on ne saura jamais.
Ouais.
Et je, en fait, j'ai pas envie de savoir, le plus important, c'est ce que j'ai fait. Voilà, comme je dis, dans le plus simple appareil, donc pas tout nu, mais pas loin.
Non, parce qu'on aurait pu se poser la question sur une question, on va dire, de... Tu sais, si on disait que la course en sandales ou pieds nus était un éducatif pour renforcer les pieds, pour retrouver une foulée plus, tu vois, plus puissante, avoir des pieds plus forts et tout. Dire, bah, peut-être qu'après, en repassant en chaussures sur certains cas, on pourrait dire on bénéficie des avantages de... Mais toi, c'est pas ta démarche en fait, donc c'est un truc qu'on pourra jamais savoir. C'est à dire que, puis même si ça se trouve, tu le disais, et est-ce que, en plus j'ai vu, hein, on sait qu'il y a des blessures à cause du probablement du carbone, en tout cas des nouveaux types de blessures qui peuvent arriver. On l'a dit aussi au départ, parce que il y a des chiffres, moi Salomon avait dit que il y avait un tiers des gens qui ne réagissent pas au carbone, mais vraiment pas du tout. Mmh. Un tiers des gens, c'est positif, et l'autre tiers, c'est même négatif. Mmh. Et à certaines vitesses, en dessous de 14 km/h, je peux dire que ça ne sert pas à grand-chose. Faut pas dire trop fort, parce que c'est quand même la masse des coureurs qui n'auraient peut-être pas besoin. Un jour, j'ai dit ça sur les gels, je me suis fait allumer, donc sur les chaussures, je ne dirais pas ça, mais il y a quand même un moment donné où ça pose question, en tout cas, et on en revient à ces questions de marketing, de ce qu'on met comme effort et tout, mais ça rassure aussi, je pense, des gens, hein, de se dire qu'on met tous les moyens possibles pour être au top, hein, dans son truc. Mais toi, c'est pas ta démarche, donc c'est vrai qu'on n'a pas la comparaison, et même s'il y avait la comparaison, il y aurait le poids des chaussures, faudrait réapprendre, réadapter, etc. Il y a plein de facteurs qui jouent dans... Mmh. On se rend pas compte à quel point, finalement, c'est un ensemble de le coureur. Parce que je sais même plus le poids d'une sandale, c'est combien, c'est...
Je crois qu'elles font 160 ou 170 grammes.
Ouais, donc c'est au moins 100 grammes de moins qu'une paire de, enfin que d'autres chaussures. Mm-hmm. Ce qui joue d'ailleurs aussi, hein, tu vois, l'autre jour le podologue il l'a dit, hein, la petite jeune fille là qui était devant moi, il a dit prenez des chaussures plus légères, ça va vous aider aussi, etc. D'avoir moins de poids au pied, enfin, c'est un ensemble en fait. On peut pas dissocier finalement ta performance de tout ce que tu as fait depuis 2 ans pour arriver à ça, quoi.
C'est ça. Bah, une performance, de toute façon, c'est pas une chose. C'est, ouais, comme tu le dis, c'est un ensemble. Moi, j'aime bien mesurer, en fait, la performance en disant c'est le moment où tu as réussi à mobiliser l'entièreté de tes capacités. Donc, que ce soit physique, technique, tactique, mental, le matériel que tu utilises, si tu as envie d'utiliser du matériel qui t'aide à aller plus rapidement. Voilà, la nutrition, bref, il y a beaucoup beaucoup de choses, et un tout petit paramètre qui est modifié dedans, potentiellement la performance elle est pétée, quoi, derrière. Donc non, c'est pour ça que c'est très difficile de mesurer le côté ça fait améliorer les performances. Faudrait prendre un panel de gens immense qui courent exactement de la même façon et changer juste un petit paramètre pour voir si c'est ça qui impacte. Ah, c'est compliqué, c'est toujours compliqué.
Ouais. Tu cours pieds nus des fois, sans tes sandales du tout ?
Ouais, la fin de mes footings, souvent, le plus que j'ai fait, c'est 5-6 km. J'ai pas fait tellement plus. Mais là, à l'été, je pense que j'en referais plus. Là, c'était l'hiver, donc non. Mm. Mais ouais, à l'été, je pense que j'en ferais un peu plus.
Et c'est tu encore... vois une différence ou pas ?
Ouais, c'est encore différent. Je fais encore des plus petits pas. Et, ouais. Tu pourrais pas faire... tout de suite 2h39 pieds nus. Non, parce que je pense que courir pieds nus, il y aurait quand même encore la peau, il faudrait qu'il y ait encore une adaptation supplémentaire, parce que la sandale, elle permet quand même de protéger du côté abrasif de la route ou du trail. Donc là, il faudrait encore qu'il y ait une adaptation au niveau de la peau, au niveau des pieds. Donc voilà, ouais, je vais en refaire un peu plus cet été.
Et puis, petit message à ceux qui veulent essayer, l'endroit le plus confortable pour courir pieds nus, c'est la route.
Ouais.
Voilà. excepté les terrains de foot qui ont une herbe bien grasse, ouais, bien épaisse, un goudron sur lequel sont passés des milliers de voitures est bien plus lisse que le petit chemin ou le petit truc où il y a des petits gravillons de partout, etc. Et c'est là où les sandales, je trouve que c'est super intéressant. Moi, souvent, je pars avec les sandales aux pieds. Et puis, dès qu'il y a un terrain qui est propice, hop, je les enlève. Je les mets même dans le sac ou je les garde à la main parce que c'est tellement léger que de toute façon, je cours pieds nus, je les remets. J'ai cette variation-là. Alors, c'est sûr que c'est un peu, des fois un peu pénible de dire je les enlève, je les remets et tout. Mais par contre, ça permet de passer des terrains. Ça permet de passer sur des zones où pieds nus, ça fait un peu mal. J'ai parlé des cailloux, mais je ne parle pas. Un jour, je passais, s'il y avait des chardons, c'est sur un bout de chemin et tout, des trucs comme ça. Là, on apprécie quand même d'avoir quelque chose sous les pieds. Mais c'est vrai que c'est pratique, je trouve, dans ce sens-là. Moi, j'utilise beaucoup dans ce sens-là les sandales. Ou tu sais, où l'été, à la mer, je pars en sandales, j'arrive dans le sable, je les enlève, je cours pieds nus, les pieds dans l'eau et tout. Et puis après, en rentrant, je me débrouille. Alors, ça dépend des fois, suivant les cas. Mais où je vais à la mer, le revêtement est tellement douloureux qu'il vaut mieux mettre les sandales que les pieds nus. Je sais pas ce qu'ils ont. Ah, non, il y a une espèce de goudron à la con, là. Oh, franchement, c'est terrible. Là, il vaut mieux prendre la route. Franchement, je le dis. Bon, ça c'était la partie pure sandale. Mais il y a un autre truc quand même dont on doit parler parce que c'est quand même ton actualité. Alors c'est pas la première actualité tout de suite, mais c'est qu'en septembre ton challenge, ton défi, je sais pas comment l'appeler ça.
Septembre,
ouais. Ça c'est un autre truc. C'est ce côté aventure au bout de la rue, au coin de la rue ou j'allais dire au bout de la ligne de métro, je sais pas, ou c'est quoi, en métro, en RER, tu vas y aller, tu vas comment au départ?
Le départ se fait dans Paris, du coup, je vais restituer, du coup, en fait, le but, c'est de boucler le GR1 en moins d'une semaine. Donc, le GR1, c'est quoi? C'est le Grand Tour de Paris, et c'est le premier GR qui a été, l'un des premiers GR qui a été balisé en France. Donc, c'est 580 km, donc l'idée, c'est de faire 80...
Attends, combien t'as dit?
580.
Et je croyais avoir mal entendu. D'accord.
Voilà. 83 km par jour. Et du coup, je vais faire en une semaine, en sandales et en autosuffisance. Quand je dis autosuffisance, c'est que j'ai le hamac dans le sac, j'ai de l'eau. Et je passe par tellement de petites villes et villages que je ne vais pas emmener tellement de nourriture avec moi et je vais me ravitailler quand j'arrive sur les lieux. Et c'est une éco-aventure que je me lance parce que j'aime bien, j'en ai déjà fait quelques-unes plus restreint plus pour moi, j'aime bien du coup le côté compétiteur d'une course officielle, mais j'aime bien aussi me lancer mes propres défis perso. Par exemple, en début d'année, en janvier, avec deux personnes que j'ai coachées l'année dernière, on a fait le défi Renopoly. Donc, on a relié les rues du Monopoly en courant dans Paris.
Ah oui, j'ai vu ça. C'était dingue.
Ouais, c'était très rigolo. On l'a fait au jour le plus froid de l'année. Parfait, en sandales, nickel. mais voilà, et c'est des défis un peu rigolos qui sortent de l'ordinaire et qui me correspondent plus. Donc, je voulais déjà me lancer un plus gros défi comme ça. Et en même temps sensibiliser sur le côté écologie, donc d'où l'éco-aventure. Et comment je veux le sensibiliser via ce défi? Pourquoi j'ai choisi le GR1? C'est que sur le parcours, on passe par 50 gares, et 50 gares directement reliées à Paris. Donc s'il y a des coureurs parisiens qui écoutent, ou qui sont de la banlieue parisienne, ou qui veulent rejoindre, pourquoi pas, vous pouvez me rejoindre, faire un bout du parcours avec moi, en utilisant uniquement les transports en commun, sans avoir utilisé la voiture. Ce que je veux montrer avec ça, c'est que quand on parle d'aventure, on pense souvent partir loin, perdu dans la jungle, en pleine montagne, en pleine mer, ou dans une civilisation complètement différente de la nôtre. Et ce qui m'énerve, ça m'énerve pas, mais ce qui me gêne dans cette définition, c'est qu'il y a le côté déplacement, il faut partir loin, il y a un côté transport. Et je veux montrer qu'une aventure, aux portes de Paris, on en a déjà, quoi. Je trouve ça important parce que quelqu'un qui rêve d'aventure et qui se dit je suis pas au bon endroit pour en vivre, et je trouve qu'il y a un mal-être ambiant qui est là, on n'en a pas conscience mais il est là, alors que juste se dire j'ai envie de vivre des aventures, je vais faire preuve d'originalité et je vais créer un truc près de chez moi, voilà, il y a pas besoin de faire un truc compliqué. Donc il y a ce côté transport, ce côté l'état d'esprit de l'aventure. Et la troisième chose que je veux faire vis-à-vis de ce défi, c'est montrer le matériel. Je me pars avec très très peu. Il n'y a pas besoin d'avoir le matériel dernière génération. Il y a Et là, on revient un peu sur les sandales parce que c'est un peu ma démarche depuis 2 ans. C'est utiliser un matériel au maximum. Pas besoin d'avoir la dernière génération. Pour certaines expéditions, ce serait certainement normal. Quelqu'un qui part au Pôle Nord, il a besoin d'avoir un matos où il est sûr que voilà, il va tenir. Mais pour être autour de Paris, il y a toujours des petites villes et tout. Si j'ai un truc qui est cassé, je peux peut-être le réparer facilement. Je ne suis pas obligé d'avoir le truc de dernière génération avec moi, quoi. Ouais. Voilà pour la genèse de ce projet. Donc, une éco-aventure autour de Paris. Et s'il y a des coureurs parisiens, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur le parcours. Ça me fera très plaisir.
Il y a un truc qui est intéressant dans l'histoire de la micro-aventure ou de l'aventure aux portes de la maison, quoi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai lu les livres de Alistair Humphreys, qui était le pape de la micro-aventure, hein, qui a fait beaucoup de choses là-dessus, qui disait que le premier kilomètre est toujours plus compliqué. Faut sortir de chez soi. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut se créer des aventures juste, mais... Là, toi, tu le fais sur 585 km. Bon, bah, c'est spécial. Hein. Mais on peut le faire sur une demi-journée, on peut faire sur 2 heures. Je me rappelle l'épisode avec Lilian Dozin, on avait parlé qu'il y avait le jeu de partir le mardi soir. Je pars du bureau, je vais dormir dehors, je reviens le mercredi matin au bureau. Enfin, on est sur une micro-aventure de 12 heures. Mais n'empêche qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Dormir dehors, etc. aussi. Enfin, le hamac, tu me diras comment si tu arrives à l'attacher partout. Moi, j'ai eu un gros problème avec le hamac l'an dernier, c'est qu'à chaque fois que je voulais l'attacher, il y a toujours un van entre les arbres. Avec le vélo, mais j'ai aussi la problématique vélo, à savoir où est-ce que attacher le vélo, etc. Et tout. Mais c'est vrai qu'on peut créer des aventures. Et tu as raison de le dire, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel quand on part en France. Septembre, tu vas parier qu'il fasse encore assez beau, quoi.
Oui, je parie là-dessus. Oui.
Ouais, tu paries là-dessus. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec Mika qui, lui, dort chez les habitants. Prends le pari de dormir chez l'habitant, de dire je vais taper aux portes et être reçu là-dedans. Tu l'as dit sur le ravitaillement, finalement, t'as beaucoup de communes parce que t'es pas en terre inconnue dans un désert où il n'y a personne. Ouais. T'as les gares. Au pire, même s'il se passe quelque chose, tu peux rentrer en train, quoi.
Tout à fait, oui. Bah oui, c'est ça. ouais. Non, ouais. Après, le côté, effectivement, moi je fais un gros projet. Ça, c'est pour le côté waouh. L'idée derrière, c'est aussi pouvoir, une fois que j'ai validé ça, pouvoir créer des aventures avec d'autres personnes sur, effectivement, une journée ou des trucs, même parfois de l'ordre de quelques heures. C'est déjà dingo. Mais voilà, donc c'est l'idée d'en faire un gros pour lancer le truc. Et après, c'est de pouvoir en créer avec plusieurs personnes, et notamment des entreprises, pourquoi pas, ouais, pour dynamiser. Et puis, ben, ce côté partage aussi qu'il y a via le sport. En fait, ben, voilà, il y a moyen de réunir plein de choses autour de la course à pied. Et je vais dire, ce premier immense défi, hein, on peut le dire comme ça, ben, voilà, c'est un premier pas. Un premier grand pas, mais un premier pas.
Je ne me rappelle pas combien de temps tu m'as dit que tu allais mettre pour faire ta petite balade.
Une semaine. Donc je pars le 8 septembre à la clôture des Jeux Paralympiques. C'est un bon passage de flamme. Et 7 jours après, donc le 8, c'est un dimanche, et j'arrive le 14, du coup, de nouveau sur Paris. Voilà, en espérant que ça rentre. 83 km par jour, c'est ambitieux, mais vu le niveau que j'ai et les petites expés que j'ai pu faire l'année dernière, les petites aventures que j'ai pu faire l'année dernière, je me dis que c'est possible. Parce que l'année dernière, j'ai fait mes reconnaissances des 2 ultras que j'ai fait l'année dernière en sandales, pareil, sur 4 jours. En fait, j'ai fait l'UT4M et l'Infernal Trail. L'UT4M, je ne l'ai pas fini, la course officielle, mais bon, j'ai fait quand même la reconnaissance. Donc, c'est 175 et 215. Et les deux, j'y suis allé sur 4 jours. Donc, ça faisait des journées à 40-50 km, mais avec du dénivelé. Là, sur Paris... je crois qu'il y a 7000 de D+ sur les 580, donc ça fait quand même pas mal, mais par rapport le ratio, c'est quand même beaucoup plus faible, quoi. Donc voilà, ça me semble dans mes cordes, et donc voilà. Je voulais pas me lancer un défi où j'étais sûr de le réussir. Le but, c'est quand même d'avoir un peu challengeant, quoi.
Non, mais là, on reconnaît le côté préparateur mental, c'est-à-dire que c'est la définition même d'un défi qui est challenge, etc. Oui. C'est un défi qu'on peut réussir, mais qui n'est pas réussi du premier coup.
C'est ça.
Donc, ouais. Il faut du challenge. Donc, ouais. Alors, bon, là, on reconnaît bien le côté préparateur mental. Là-dessus, mais c'est important pour le dire, parce que j'ai eu, je ne sais pas combien de personnes en consultation qui m'ont dit, ouais, je me suis inscrit à un challenge, mais en fait, il n'est pas très motivant parce que je suis à peu près sûr que je vais le finir. Ou alors, je n'ai pas la belle carotte à l'arrivée ou je ne sais pas quoi et tout. Attention, ça fait partie de la motivation et des éléments. Et en préparation mentale, on travaille beaucoup sur ces éléments-là parce que c'est souvent là que ça pioche. Où il y en a des gros problèmes, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que 83 km vu comme ça, moi ça me paraît énorme, tu vois, d'enchaîner. Bon, après tu le fais que sur une semaine, que sur une semaine, mais je me dis, en niveau matériel, t'as pesé déjà ton matériel, tu sais à peu près comment combien ça va te faire?
Je vais estimer à 7 kg max avec l'eau compris. En fait, c'est pour ça que je choisis le hamac. L'avantage du hamac, c'est que ça pèse rien. C'est très très faible. J'ai un tout petit duvet aussi, c'est pour ça que je le fais l'été aussi, pour pas avoir un duvet. L'eau, bah pareil, en fait moi ce qui était lourd quand j'avais fait mes reconnaissances d'ultra, bah c'était l'eau, parce qu'en montagne je n'étais pas sûr de pouvoir recharger tout le temps. Là je vais partir peut-être avec un litre et demi.
Ouais.
C'est pas comme les 3 litres que je me trimballais en montagne. Et puis bah les affaires de rechange, j'en aurai une, quoi. J'aurai une affaire pour le soir pour dormir au propre, et puis la journée sera toujours les mêmes fringues, donc je vais choquer à l'arrivée, mais mais bon voilà. J'ai pas grand chose en fait. J'ai le strict nécessaire point de vue sécurité aussi, mais c'est-à-dire la couverture de survie forcément, et des petits pansements au cas où, et un petit sachet de Doliprane si jamais il y a un truc qui va pas, mais c'est tout, quoi.
Bon, au pire t'es des pharmacies sur le chemin, quoi. Enfin...
oui, bah pareil. Bah toi, quand j'ai fait la reconnaissance de l'infernal, je me suis pris 3 tics, donc je suis allé en pharmacie et ils me les ont retirés. Bon voilà.
Bah comme si tu partais en plein milieu du désert où tu vois personne pendant plusieurs jours et tout. Non mais c'est vrai aussi, je pense que c'est rassurant pour beaucoup de gens. Alors moi, tu vois, là où par contre je me dis région parisienne et tout, c'est sur la nuit, tu vois, c'est t'as anticipé à peu près tes étapes et tout, je dis 83 et tout, mais il faut quand même trouver un endroit où dormir, être à l'abri, peinard.
Ouais. Alors en fait, le Grand Tour de Paris, il passe par les différents bois autour de Paris, donc c'est le Grand Tour de Paris, mais on fait que le départ et l'arrivée dans Paris, hein, sinon on n'est pas du tout dans les villes, très très peu en tout cas, et on passe par le Vexin, l'Oise, le Gâtinais et la Haute-Vallée de Chevreuse, et du coup en fait, mes stops ils se font dans les bois, donc... Donc ouais, voilà, donc ce sera bivouac, ce sera pas en camping. Donc on m'a posé la question si point de vue sécurité j'avais pas peur. Non. Moi je me pose, si, non, j'ai pas peur, je me pose pas trop.
Tu dors. Voilà. Tu dors pas dans le bois de Boulogne, donc t'es tranquille.
Mais je me pose pas trop cette question, vu que de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient à... Ils auraient rien à me voler, j'ai rien. Ils vont me voler mes sandales. Mince.
Tu finirais pieds nus. Ah zut. Oh, qu'est-ce qu'on a pris.
Non, ouais, j'ai rien, quoi, avec moi. J'aurais vraiment le strict nécessaire, quoi. Allez, style téléphone, on peut me piquer le téléphone.
Bon, après, il pose la question, le charger, ton téléphone.
J'ai une batterie. J'aurai une batterie. Et quand je m'arrête dans les villes, le temps que je prenne du pain un croissant, je charge le téléphone en attendant. Et puis, la plupart du temps, mon téléphone, il sera en mode avion et je l'utilise que en mode secours, comme je fais en montagne. C'est le téléphone à ce moment-là, il sert plus à communiquer, machin. Il sert à, il sert à la sécurité. C'est tout.
Et puis les gares ont des prises électriques. On m'a beaucoup demandé comment je faisais. C'est vrai que je connaissais toutes les gares sur le chemin et tout. Alors je peux dire qu'il y a des gares qui sont mal placées, il y a des gares qui sont ouvertes, fermées et tout. Il y a des astuces. Les gens dans les gares, certains vivent dans les gares, les SDF m'ont dit il y avait des prises qui marchaient pas. Il y a un monsieur, il m'a montré l'heure, il m'a dit à 6 heures seulement la prise.
Ah non.
Ouais, si, si. À Bordeaux, pour l'anecdote, à Bordeaux, la gare était ouverte avant.
Okay.
Et il me regarde, il me montre l'heure, il me dit 6 heures. Donc, comme quoi, il y a des petites astuces, etc. Je ne sais plus quelle gare aussi. Tout le monde était un peu à la recherche de prises. Donc, il y a des trucs. Mais c'est vrai que ce côté aventure, je pense qu'il y a plein de gens qui sont tentés, mais qui n'osent pas trop le faire. Et en même temps, on en parlait, tu vois, avec Mika aussi, en disant, je sais pas si toi, comment t'as prévu, si tu vas la nuit, si tu vas courir de, parce que 83 km, comment tu t'organises, tu dis, je cours de jour, de nuit, le matin, les choses comme ça, quoi.
Ouais, je vais surtout courir de jour, je vais me lever tôt le matin. Ça, c'est encore la partie logistique où il faut que je regarde, mais je vais partir tôt le matin et essayer d'arriver. L'avantage en septembre, c'est qu'il fait encore jour assez tard. C'est sûr que le mieux du mieux, ce serait de faire en juin, mais j'ai déjà une course de prévu en juin, du coup, ben, raté. non, ouais, c'est de partir le plus tôt le matin et d'arriver aller à la tombée du jour. J'aime bien m'installer avant qu'il fasse nuit. Aller à la max, c'est quand même plus confort. Et après, on verra. De toute façon, c'est ça aussi le côté aventure, c'est qu'il va falloir s'adapter. Si ça se trouve, il y a un jour où clairement, je ne serai pas dedans. Et si je veux faire mon 83 km jour, bah, je vais finir de nuit et je finirai de nuit. Et puis, c'est tout. Donc, il y a le côté adaptation qui est challengeant aussi. C'est ça, l'aventure, c'est se lancer un peu dans l'inconnu. Donc, je maîtrise quand même beaucoup de choses dans le côté course à pied et dans déjà tout ce que j'ai pu faire. Mais il y a toujours une part de... Voilà, de quelque chose qu'on maîtrise pas, qu'on sait pas, et faut s'adapter.
Et rappelons que tu peux le faire parce que c'est petit à petit tu progresses. Tu te lances pas dans 585 km, tu l'as dit, tu as fait la reconnaissance de tes autres ultras sur 4 jours et tout. C'est des choses sur lesquelles tu progresses, de même que les sandales, t'as oui. raconté les 9 mois d'adaptation. C'est un processus où chaque année tu as des trucs comme ça qui se rajoutent.
Ouais, mais après, je trouve ce qui est beau en fait dans la course à pied ou dans ma pratique en sandales, c'est que tout ce qui s'applique à la sandale, ça s'applique aussi à la vie de tous les jours. On parlait de progressivité, ben c'est pareil quoi. On se lance un défi, on va pas du jour au lendemain faire ça. Je fais souvent le rapport en entreprise, mais mettons, on démarre en entreprise, on va pas faire une présentation sur un sujet ultra complexe qu'on ne maîtrise pas devant 500 personnes. On va d'abord maîtriser le sujet, on va apprendre à parler et après on va pouvoir le faire. Ben voilà, c'est les mêmes schémas en fait. Et ouais, pour moi, l'aventure, c'est ça aussi. C'est créer progressivement, monter progressivement, aller chercher de plus en plus loin l'inconnu. Pas un énorme bloc d'un coup, mais voilà, progressivement pour mieux le vivre. On peut avoir un énorme bloc d'un coup. Le problème, c'est que si on a trop d'un coup, on risque de se faire écraser par ça. Donc non, si on y va progressivement, on décompose le projet et ça avance. Moi, je sais qu'à long terme, ce que je voudrais, donc là, je fais beaucoup de défis plutôt perso ou avec une ou deux personnes, mais j'aimerais accompagner des gros groupes. Mais avant de pouvoir accompagner des gros groupes, moi, je veux me pousser un peu plus loin pour être vraiment à l'aise et accompagner des gens après. Voilà. Pour dire un peu les étapes qui peuvent suivre derrière, c'est que je m'arrête pas juste à ce défi-là. Il y en aura d'autres derrière et c'est ça le prolongement. C'est pouvoir créer des projets avec d'autres gens. Et potentiellement des grands groupes. Et du coup, moi, mon inconnu, ce sera gérer ce grand groupe et plus tellement la difficulté de l'effort. Parce que ça, je sais que je suis capable de faire plus. Voilà.
Ouais, mais c'est bien de le faire dans ce sens-là, parce que si tu amènes un grand groupe en n'étant pas sûr de savoir ce que tu dis, où tu les amènes. Ouais. Ouais, je sais pas, ça serait une sacrée aventure en tout cas pour ceux qui.
Oui, oui pour ceux qui viennent, ouais, ça, pour le coup, c'est aventure.
Écoute, en tout cas, tu l'as dit, hein, c'est en sandales, hein, bien sûr, parce qu'on ne va pas préciser. Oui. T'as pas l'intention de repartir en chaussures et tout
Non. J'ai quand même, quand je suis en montagne, j'ai des chaussures dans le sac. Par exemple, quand j'ai fait la reconnaissance du VT4M, il y a une partie dans des névés. Bon, j'ai des chaussures. Voilà, mais c'est pour des cas bien précis et c'est pour question de sécurité ou parce que je le sens pas. Voilà. Mais non, sinon, pour tout ce qui sera accessible. Je le ferai en sandales, ouais.
Ouais. Alors, tu as parlé de trail. Alors, UTL 4M, etc., c'est comme des grandes, grandes distances. Quand on parle de ces trails-là, on pense toujours à des choses type UTMB. Olivier Maria, lui, il a son dossard de l'UTMB. Alors, je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, tu vas en sandales et tout. Mais si tu étais sur une course comme ça, tu iras en sandales ou pas, en fait?
Si l'organisation le permet, ouais. Je sais qu'il y a certaines courses qui refusent. Pour question de sécurité, on est d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est l'organisation qui décide, hein, c'est elle qui est responsable aussi de la sécurité des coureurs. Si l'organisation le permet, j'y vais, voilà, c'est tout. L'UTMB, non, j'ai pas mon dossard, faudrait que je fasse une course qualificative avant, je crois que c'est plus la course qualificative avant qui m'énerve parce que j'ai envie d'avoir le choix dans mes courses et c'est pas forcément celle que j'ai envie de faire. Bon, du coup, on verra. Quand les envies changeront, peut-être que... voilà.
Donc peut-être qu'un jour nous verrons Monsieur Costaud aller savoir sur, en tout cas sur les, sur on ne sait pas quel chemin. En tout cas, écoute, je te souhaite que tu arrives à faire ce que tu as envie, que déjà, je trouve que c'était chouette de voir et tu vois je trouve le côté sandale, c'est vrai que des fois ça fait un peu perché sur les trucs et tout, mais tu montres que il n'y a pas d'opposition entre pouvoir courir vite et courir en sandale en fait et être en minimaliste. Qu'il n'y a pas que la voie maximaliste, carbone, pour aller vite, et qu'il y a d'autres pistes, mais que forcément ça se travaille. Et puis après, tu as ton niveau, tu as ton niveau d'entraînement et tout, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais forcément que pour arriver à faire ça, il faut charbonner, quoi. Il y a des gros entraînements pour le faire. Mais ça montre qu'il y a plusieurs chemins, en fait. C'est ça qui est intéressant, il y a plusieurs chemins. Tu as dit, il y a plusieurs chemins aussi pour l'aventure, il y a plusieurs chemins pour choisir ses chaussures et tout. Mais qu'après, il y a une cohérence d'ensemble, un grand truc dans la logique. Pour terminer cet épisode, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, bien sûr, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais c'est quoi ? C'est mieux Instagram, ça c'est sûr ?
Oui, Instagram, donc Nico Angère Coaching. C'est le même blaze sur Facebook. Sur YouTube aussi, j'essaie de faire une vidéo par semaine ou toutes les deux semaines, notamment là, pour le projet Objectif Record sur le GR1. Parce que du coup, ouais, je l'ai pas dit, mais sur le GR1, il n'y a pas de record qui est établi. Donc, le but, c'est de mettre le premier nom dessus. Ouais. Voilà. Donc, je parle un peu de toute ma préparation. Et sinon, j'ai un site internet aussi, Nico Angère Coaching. Voilà. Donc, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, pareil. Nicolas Angère Muller, pour le coup, c'est mon nom en entier. Voilà, surtout.
Ouais, bon, je savais pas que sur le GR1, il n'y a pas de record, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, oh là, les records, et il est dur à taper quand même celui-là après, hein. Il y a des sacrés clients qui sont mis dessus, ça fait partie des, je sais pas, tout le monde s'est mis à vouloir faire le tour de la Bretagne le plus vite possible, il y a eu tous ceux qui ont voulu faire la traversée de la Corse, tiens, la Corse, tu vois, en sandales par contre.
On verra, faudrait d'abord que je le fasse une fois en marchant pour voir, et puis on verra si je le fais en courant, mais ouais, typiquement, toi, sur ce genre de terrain, j'aurais les chaussures dans le sac au cas où, quoi.
Ouais.
Voilà. Après, ouais, tu vois, l'UT4M, on disait Beldon, c'est pas possible de le faire en sandales. Bon, en reconnaissance, je l'ai fait. Et Olivier Maria s'est arrêté juste après Beldon. Bon, il était rincé, mais pas tellement à cause des sandales, mais physiquement, il n'en pouvait plus, quoi. Mais du coup, ça se fait aussi. Donc, je sais plus quelle est la phrase exacte, mais il savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bon, bah, voilà, il faut le faire. Avec, en faisant attention, mais faut essayer. Essayer pour moi.
Bon, on n'a pas parlé du tout de nutrition, mais parce que là, on est sur Kilomètre 42. T'es quand même pas allé pousser jusqu'à Olivier Maria, qui lui a fait à jeun, juste en buvant de l'eau, hein, ton marathon.
tu vas rire, mais non, j'ai mangé avant la course, mais j'avais prévu une barre de gel, enfin un gel miel au 30e, que j'ai oublié au départ. Et du coup, j'ai rien mangé sur les 42 km. J'ai juste bu.
T'as rien mangé sur les 42 km?
Non, non, bah c'est, tu vois, quand je disais il y a des petits points d'amélioration, je pense quand même là-dessus, parce qu'au 35e, j'ai pris un petit coup de barre. J'ai pas mangé de la barre, mais j'ai pris un coup sur la tête. Là, je pense qu'un petit gel aurait fait du bien. Je suis plutôt à suivre Olivier, à pas trop manger sur les courses, mais pas comme lui, je suis pas assez tôt. J'en ai pas envie, du coup.
Ouais.
J'ai pas envie de me restreindre comme ça. J'ai pas envie de me mettre ces restrictions-là. Mais ouais, en tout cas, j'ai fait ce marathon sans rien manger. Pareil, un gel tous les 5 km, j'arrive pas à comprendre. C'est pareil, c'est une course à l'armement. On voit que c'est possible. Encore une fois, ça montre que c'est possible de faire moins de 2h40 sans manger des gels tout le temps. Et en plus, je ne gère pas, donc c'est une raison de plus. Mais voilà.
Comme quoi, ce qui montre qu'il y a bien plusieurs chemins possibles pour arriver à des performances, que la performance est un tout, etc., comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a bien plusieurs chemins possibles, potentiels, etc., qu'il n'y a pas que le chemin tac, etc., et qu'il y a vraiment plusieurs options, qu'il y a des questions d'entraînement, d'adaptation, il y a trop d'éléments pour dire qu'il n'y a qu'une réponse pour tout le monde. Ça, c'est la grande magie. Et c'est vrai que ces épisodes le montrent justement, que il y a plein de variables qui peuvent rentrer en compte. Va savoir hein, quel temps t'aurais fait. Voilà, mais t'aurais doublé les Kenyans après. T'imagines le sponsor officiel qui se fait doubler par un gars en sandales, en tongs. Oh là 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 là.
Ça, fout mal,
hein. Ça aurait été le truc en disant oh, qui c'est ce gars-là. Bon, bref. En tout cas, je te remercie beaucoup. Bon, bien sûr, je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. On suivra hein, bien sûr ces aventures-là. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer quand même. Cette histoire de GR, parce que mon Paris Deauville l'an dernier est passé à des endroits où j'ai coupé un petit peu ton passage. Je vois le côté vallonné des choses. Ouais. Je me rappelle que certains terrains sont très loin d'être faciles. Franchement, ouais. Ça reste l'Île-de-France. Moi, j'étais surpris qu'il ne connaît pas du tout l'Île-de-France. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs? Et puis, tu vois le panneau ici, vous quittez l'Île-de-France. Je dis, mais ça fait un bout de temps qu'on est dans la campagne, ouais. Etc., que c'est vallonné, qu'il y a même des terrains compliqués dans les descentes un peu techniques, etc., qui sont surprenantes. Donc, on suivra ça avec attention. Je te remercie beaucoup pour ton point de vue, ton avis, tes petits, tous les messages aussi, parce que c'est intéressant aussi de voir ce que tu appelles, toi, la performance et on voit aussi la réflexion très préparation mentale aussi sur cet aspect-là qui est important aussi que chacun voit aussi son niveau de performance et la jauge par rapport à ce qu'il veut faire. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et puis, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité. Alors, j'ai un petit doute, je ne sais pas qui c'est, mais j'en ai plusieurs en stock qui sont en train de se mettre. Il se peut que ce soit un autre concurrent du Marathon de Paris, il se pourrait que ce soit d'autres personnes qui fait un semi ou d'autres trucs. Bah, voilà, il y a d'autres sujets qui vont arriver. J'ai une liste, mais après le salon du marathon, j'ai une liste super longue avec plein d'invités. J'ai même vu des gens qui courent avec une tour Eiffel sur la tête, je ne sais pas si tu as vu ça.
Ah oui, j'ai vu, ouais.
Tu l'as vu? Ouais, j'ai discuté avec lui, mais ce ne sera pas lui le prochain invité. C'est sûr, ce n'est pas encore calé. Mais j'ai vu, et c'est là où on voit aussi que la course à pied, chacun peut courir comme il veut, il peut faire des trucs vraiment dingues. Et en tout cas, qui lui paraissent pas dingue du tout, hein, pour de bonnes causes, et qui montre que chacun peut faire comme il veut. Et je te remercie d'avoir passé ce message. Toi aussi à ta manière. Moi, je vais aller revoir mes petites tongs. Hein, je vais régler mes petites lanières. Je vais reprendre les tutos pour trouver le bon réglage. Voir comment ne pas avoir ces petits cailloux qui se mettent entre la semelle et mon pied là, qui m'énervent un petit peu. Enfin, voilà, de temps en temps, c'est aussi un peu pénible. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Et puis, nous, on se retrouve le samedi pour le conseil, le lundi pour l'épisode samedi. Et puis, jeudi, la semaine prochaine, nouvel invité. Vous verrez bien qui c'est. En tout cas, on continuera à courir, à galoper. Et on aura même un épisode, on partira sur la technologie. Tu vois, beaucoup plus de technologie, pas de carbone, mais vraiment beaucoup de technologie en plus. Et même 2-3 épisodes, on mettra beaucoup de technologie dedans pour voir un petit peu comment ça nous aide à courir. Tu vois, et on sera dans un monde un petit peu différent. Je te remercie beaucoup.
Très bien, merci. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.